Guillaume Cousin, rejoignez-nous s'il vous plaît, je vous en prie. Venez monter donc à cette tribune. Guillaume, vous êtes adjoint au chef du bureau nutrition et information sur les denrées alimentaires à la DGCCRF. On voulait débuter par vous. L'herboristerie donc en France et sa réglementation. On commence, vous l'avez très bien compris aujourd'hui, sur la matinée, donc sur le, j'ai presque dire sur l'actualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et le côté prospectif, ce sera donc pour cet après-midi. Alors je vais vous laisser donc présenter donc cette réglementation des plantes, le statut des plantes alimentaires. On aura donc aussi tout à l'heure avec Anne-Lé qui va nous rejoindre. On aurait bien voulu qu'elle soit juste derrière vous, mais elle arrive, en fait, elle arrive, elle prend un avion pour la sécurité du médicament et elle nous parlera de ce qui est médical. Donc pour la partie donc alimentaire, on vous écoute avec plaisir. Merci à vous.
Merci, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci déjà de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi de débuter cette journée de réflexion. C'est aussi un grand défi, hein, parce que déjà, je dois vous parler de réglementation, ce qui n'est jamais facile, et en plus dans un délai relativement restreint. Donc, si vous le voulez bien, je vais essayer de circonscrire mon propos à la réglementation applicable aux produits à base de plantes revendiquant des effets, et notamment des effets sur la santé. Et bien entendu, loin de réaliser une exégèse des dispositions en vigueur, je m'attacherai à vous présenter les principes qui fondent ces dispositions réglementaires et à identifier les difficultés que pourraient rencontrer des opérateurs lors de la mise en œuvre de ces dispositions. Donc, si l'on suit le chemin qui va guider notre réflexion tout le long de cette intervention, la première étape nous amène vers un point particulier qui est celui du statut des produits. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que dans l'Union européenne, on ne vend pas des plantes. Dans l'Union européenne, on vend des produits à base de plantes. Et ça, c'est un point extrêmement important. Autre point important, malheureusement, je dirais, il n'existe pas de réglementation transversale sur les produits à base de plantes ou produits à base d'espèces végétales. Le droit de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs repose sur des grands principes que vous connaissez tous, protection de la santé des consommateurs, loyauté des pratiques commerciales à leur égard. Et ces grands principes, si vous voulez, sont déclinés dans des réglementations sectorielles, ce qui me fait dire en général que le droit de l'Union européenne est organisé en silos. Voilà, en silos relativement étanches. Hein, ce qui fait que coexistent sur le marché européen des médicaments, des aliments, des cosmétiques, des biocides, des dispositifs médicaux, etc. etc. Chacune de ces catégories peut intégrer, bien sûr, des plantes, des espèces végétales, mais il n'y a pas de réglementation transversale. Alors, le droit de l'Union européenne est conçu de telle manière qu'il ne peut pas y avoir de superposition entre ces différents silos. Hein, c'est-à-dire que si un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à plusieurs définitions, de rentrer dans différentes catégories, alors un choix doit être opéré. Et ce choix est soit le fruit de la réglementation, par exemple le droit dit clairement la définition du médicament prime dans tous les cas, voilà, soit le fruit de l'usage principal qui est proposé par l'opérateur. Voilà. Mais on voit là déjà un premier niveau de difficulté qui est que certains opérateurs souhaitent non pas commercialiser un cosmétique ou une denrée alimentaire, mais bien une préparation de plantes. Je pense en particulier aux huiles essentielles. Hein, des opérateurs souhaitent commercialiser des huiles essentielles avec plusieurs usages. Donc voilà un premier niveau de difficulté. Ensuite, la détermination de la catégorie va emporter un certain nombre de conséquences, et notamment l'application de tout un corpus réglementaire spécifique par catégorie de produits. Des réglementations qui vont prévoir des règles en matière de fabrication, de composition, d'étiquetage, de présentation, de commercialisation, etc., etc., etc. Et là, nous sommes, gérés dans la deuxième étape de notre chemin, qui est celle, justement, de l'application de tous ces corpus réglementaires. Ce qui n'est pas simple. Prenons un exemple. Imaginons un paysan herboriste lambda. On va l'appeler Denis. Ça vous...
oui,
Denis,
oui.
Ça vous... Donc Denis produit du millepertuis et souhaite le proposer au consommateur sous différentes formes. Donc, par exemple, il va faire sécher ses sommités fleuries, je crois, pour faire des infusions. Donc là, nous sommes plutôt dans le domaine alimentaire, avec le risque notamment de se voir opposer le monopole pharmaceutique, qui est une disposition franco-française. Il va ensuite vouloir faire macérer ses plantes pour faire des teintures qu'il proposera comme complément alimentaire. Alors là, on appliquera la réglementation spécifique du complément alimentaire qui est une catégorie de denrées alimentaires. Il devra déclarer son produit à la DGCCRF. Il devra réaliser un dossier qualité pour le produit, recensant un certain nombre d'informations sur le produit et sur la plante. Ensuite, imaginons qu'avec ce millepertuis, il fasse une huile pour application topique. Alors là, il devra appliquer la réglementation européenne sur les cosmétiques. Il devra notamment déclarer son cosmétique sur le portail européen du CPNP. Il devra faire un DIP, un dossier d'information produit, dont le contenu est différent du dossier qualité complément alimentaire, même si globalement les objectifs sont les mêmes. Donc vous voyez que ces différentes applications entraînent l'application de différentes règles et il est important pour l'opérateur de connaître, maîtriser et appliquer tous ces corpus réglementaires, ce qui n'est pas simple. Autre niveau de difficulté qui est souvent souligné, c'est, je dirais, l'absence, enfin en tout cas l'insuffisante prise en compte du caractère traditionnel des plantes dans ces différents corpus réglementaires. En effet, l'application de règles sectorielles par catégorie de produits peut conduire effectivement à une absence présumée ou une insuffisance présumée de prise en compte de ce caractère spécifique des plantes et notamment de cet aspect traditionnel, de ce savoir ancestral dans l'application des règles. Alors, cette critique est partiellement fondée, elle n'est pas toujours vraie, puisque il existe un certain nombre de réglementations qui essayent de prendre en compte cette tradition d'emploi. Je pense par exemple à la directive sur les médicaments traditionnels à base de plantes. La notion de tradition est également prise en compte dans la réglementation sur les nouveaux aliments dans le domaine alimentaire. On essaye de l'intégrer dans la réglementation sur les compléments alimentaires, par exemple. Mais il est vrai que cette question de la tradition peut susciter des difficultés de mise en œuvre, notamment, je pense en particulier au cas des allégations de santé dans le domaine alimentaire. Et cela nous amène vers la troisième étape de notre chemin, qui est celle de la communication santé destinée au grand public. Là encore, cette communication santé destinée au grand public va voir un cadre réglementaire très varié selon la catégorie de produits. Elle est interdite sur les médicaments remboursables, elle est soumise à autorisation préalable dans les denrées alimentaires, elle est relativement libre, on va dire, dans le domaine des cosmétiques ou des dispositifs médicaux de classe 1 et 2A. Donc vous voyez qu'il y a un différentiel de traitement selon la catégorie de produits et ce différentiel de traitement peut générer des incertitudes, en tout cas des inquiétudes quant à la proportionnalité des règles qui s'appliquent. Proportionnalité, je vais vous donner un exemple. Prenons le cas des denrées alimentaires, justement, avec cette problématique des allégations de santé. Au niveau européen, l'Union européenne s'est dotée d'un cadre réglementaire extrêmement ambitieux, avec le règlement 1924-2006, qui vise à faire autoriser préalablement toute forme de communication de santé sur les denrées alimentaires. C'est-à-dire que pour un opérateur donné, s'il souhaite dire sur son produit qu'il a tel ou tel effet sur la santé, il devra soit aller piocher dans une liste d'allégations de santé qui sont d'ores et déjà autorisées, une liste positive, soit réaliser un dossier scientifique qui sera évalué par l'AESA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et faire l'objet d'une décision des autorités européennes. Et dans ce domaine, l'AESA considère qu'il est nécessaire d'avoir le plus haut niveau de preuve scientifique. Donc le plus haut niveau, c'est études cliniques en double aveugle contre placebo. Voilà. Alors bien évidemment, quand il s'est agi d'aborder la question des plantes, l'AESA a tout d'abord rejeté un certain nombre d'allégations fondées uniquement sur des données bibliographiques issues de la tradition. Et les États membres et la Commission européenne se sont alors retrouvés dans une sorte d'impasse juridique, puisque elles étaient tenues de rejeter, de refuser ces allégations, alors même que les données bibliographiques, la tradition, on va dire, étaient prises en compte dans le contexte des médicaments traditionnels à base de plantes, dans leur autorisation et la justification de leur efficacité. Donc on avait là une disproportion très forte, puisque on exigeait un niveau de preuve supérieur pour un effet physiologique sur des denrées alimentaires par rapport à un effet thérapeutique sur des médicaments. Et si on reprend l'exemple de notre de Denis, qui veut commercialiser son mie de pertuis, s'il souhaite revendiquer un effet psychologique sur l'humeur, par exemple, avec son complément alimentaire ou son infusion, il devra donc déposer un dossier avec des études cliniques en double aveugle contre placebo, alors même que, je lis, le traitement à court terme des symptômes dépressifs légers a été accepté par l'Agence européenne du médicament sur la seule base de données bibliographiques. Voilà. Voilà le genre de problème de disproportion que l'on peut observer en raison de l'application de règles par catégorie de produits sans prise en compte, je dirais, d'un aspect transversal lié aux plantes. Voilà. Donc, les questions de statut, les questions de maîtrise de la réglementation, les questions de proportion entre les règles et de prise en compte, notamment de la tradition, voilà autant de défis que devra relever la filière de l'herboristerie si elle souhaite se développer. Et cela nécessitera bien évidemment de l'écoute, des échanges, hein, du dialogue et de la pédagogie entre tous les acteurs. Hein, je pense en particulier bien évidemment aux acteurs de la filière, mais aussi au pouvoir public. Et la DGCCRF, en tant qu'autorité de contrôle des produits et autorité de régulation, constitue bien évidemment l'interlocuteur privilégié des acteurs de la filière dans ce domaine, et dans ce sujet comme dans bien d'autres, elle essaiera elle fera preuve de toutes ses qualités d'écoute, d'échange et de pédagogie, tout en s'attachant bien évidemment à ne pas contrevenir à ses obligations de gardienne de l'ordre public économique. Voilà.
Merci. Un grand merci à vous, Guillaume Cousin, d'avoir posé ce décor. C'est une belle piste de slalom, hein, quand même. Là, il faut. C'est quand même pas simple. Notre cher millepertuis, comme vous le savez, donc très très bien pour contrôler les dépressions saisonnières. Hein, c'est parfait. Ça, c'est un truc très bien. Jean-Marie Pell, d'ailleurs, il l'achetait plutôt en Allemagne parce qu'il m'a dit que c'était plus renforcé qu'en France, donc il préférait le prendre là-bas. Mais ça marchait plutôt pas mal. Écoutez, si vous souhaitez donc rester avec nous, parce qu'il y aura des questions donc tout à l'heure, je vais demander maintenant à Michel Pierre, à Audrey Bénavent, à Henri Joseph, à Isabelle Robard et Cyril Coulard d'avoir la gentillesse de monter sur cette scène. S'il vous plaît, venez les uns et les autres. Je vous présenterai évidemment mieux au fur et à mesure. Parce que là, on va voir comment donc les herboristes, deuxième partie, on va dire, réagissent face à cette réglementation. Je me tourne vers Fanny. Où es-tu, chère Fanny ? Je ne sais pas si tu es... Non, elle n'est pas là, Fanny, d'accord. Non, c'était pour voir si Anne-Lé était arrivée, parce que Anne-Lé va venir tout à l'heure, hein, pour la sécurité du médicament, pour nous parler de la partie médicale, mais elle n'est pas encore là. Elle arrive, donc on reviendra sur Anne-Lé, donc sur le côté donc tout à fait juridique. Voilà comment les herboristes réagissent donc face à cette réglementation. Donc évidemment, on se pose pas mal de questions. On va commencer par vous, Michel Pierre, de l'herboristerie du Palais Royal, donc vraiment régional, absolument de l'étape, comme on dit, président du Cynaplante. Donc les problématiques aujourd'hui de l'herboriste de comptoir, donc que vous êtes, entre les procès pour exercice illégal de la pharmacie, etc. Où en est-on donc aujourd'hui ? Je vous en prie.
Merci de m'avoir invité. J'exploite effectivement cette herboristerie depuis 46 ans, dont je suis l'exemple vivant d'un herboriste qui a exercé la vraie profession d'herboriste pendant 25 ans, qui ensuite, quand l'herboriste, puisque j'étais associé avec une personne diplômée d'avant 41, j'ai pris le culot de continuer mon activité pendant une dizaine d'années environ. Ensuite, j'ai engagé une pharmacienne, pensant être tranquille, et c'est là que le procès est tombé. À savoir, et je dois par contre remercier la DGCCRF, parce que avant que ce procès soit enclenché, la DGCCRF m'avait prévenu par téléphone, et j'apprécie beaucoup cette attitude, pour me dire d'enlever les allégations sur mon site internet. Ensuite, le procès a suivi son cours. J'ai été condamné à l'appel à une amende avec sursis, ce qui fait que le procureur de la République et les juges étaient quand même très gênés d'être obligés de me condamner. C'est ce que j'ai ressenti quand je les ai vus. Actuellement, moi qui ai vendu pendant des années et des années 450 plantes médicinales, je me suis retrouvé à ce moment-là à ne vendre que 148 plantes qui étaient des ventes autorisées. Et puis ces plantes, je les ai retrouvées dans les compléments alimentaires. Et ça me chagrinait beaucoup d'être obligé de vendre une plante en gélule et d'avoir l'interdiction de la vendre sous forme de tisane.
C'est-à-dire que vous en avez 1000 en compléments alimentaires qui sont parfaitement autorisés, sous forme de gélules, on va dire. Mais vous ne pouvez pas, évidemment, vous, dépasser les 148.
Oui, c'est ça. Maintenant, les 1000 plantes dans les compléments alimentaires, on va plutôt parler de résine, de diverses substances, alors qu'en vérité, on se retrouve avec une trentaine de plantes ou quelque chose comme ça. On souhaite justement que cette liste s'élargisse pour le bien-être de la population.
Voilà, donc ça, c'est évidemment un témoignage extrêmement intéressant. Audrey Bénavent, on se tourne vers vous. Vous êtes paysanne herboriste en Corrèze. Donc, nous sommes sur la partie granitique. On est sur la partie calcaire quand on est à Brive. Mais là, on est dans le granit. Hein. On est du côté du Zerche. Voilà. Donc, vous me disiez que vous aviez de l'herbe à n'en plus finir avec ce printemps qui a fait à peu près tout et n'importe quoi. Peu importe. Vous y serez ce soir ou demain matin. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du vrac? Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous, s'il vous plaît, aussi donc, par rapport à cette réglementation. Comment on agit?
Donc moi, je suis paysanne herboriste en Corrèze, installée depuis 6 ans avec mon mari sur une petite ferme.
Chantex.
À Chantex, ouais, exactement. Et j'ai envie de partager aujourd'hui mon expérience par rapport à la réglementation, qui est une expérience parmi celle de centaines d'autres producteurs. Et on est de plus en plus nombreux dans la filière à s'installer paysan herboriste. Et ça, je pense que c'est important à souligner. Donc, en premier lieu, en fait, j'aimerais vous parler de l'enthousiasme qui m'a porté au début de mon installation. J'étais vraiment passionnée par les plantes et c'est ça qui m'a motivée à m'installer, à faire le choix de tout lâcher dans ma vie pour me reconvertir dans l'agriculture. Et c'était pas un choix facile. Et j'avais envie de retrouver mes racines, de retrouver du lien à la nature, du lien au vivant. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis installée.
Vous ne faites pas partie de ces anciens traders qui, après une espèce de foi, de reconversion,
non,
qui, après avoir foutu en l'air la planète...
Déjà dans la protection de la nature.
D'accord.
Ouais, okay. Voilà. Et en fait, donc ça, c'est avec mon mari, on a choisi d'entrée de jeu, d'avoir une large gamme de plantes. Donc, vous avez là tisane, aromates, des alcoolatures, des macérations de bourgeons, des macérations huileux transformées parfois en baume. Et puis après, on distille les plantes aussi pour faire des hydrolats et des huiles essentielles. Donc, au total, c'est à peu près 120 plantes qu'on travaille aujourd'hui. Et d'entrée de jeu, on a fait le choix de l'agriculture biologique, en fait. Donc, on avait envie d'une démarche qualité, de forte qualité. Et puis, rapidement, on a rejoint le syndicat Simple, donc un syndicat de producteurs de plantes, qui a un cahier des charges qui va beaucoup plus loin en termes des pratiques, d'encadrement des pratiques, que ce soit des cueillettes, la culture, la transformation. Et pour nous, l'avantage qu'on voyait, c'est que c'est quand même un système de garantie participative aussi, c'est que ce sont nos pairs. Ce sont les autres collègues qui viennent nous contrôler. Et en ça, ça offre un gage de qualité à nos produits, à notre manière de travailler. Et c'est déjà un argument essentiel qu'on a envie de mettre en avant.
Alors sinon, vous ressentez quand même un petit contrôle sur les cosmétiques?
Oui, là, j'en sors un petit contrôle sur les cosmétiques.
Oui,
ouais.
Qu'est-ce qu'on reprochait, en fait, en gros? Enfin, peut-être qu'on vous contrôlait simplement.
Oui, on m'a contrôlé. Donc, c'est juste pour vérifier que je respectais bien la réglementation, comme disait Guillaume, qui est assez segmentée dans le domaine des plantes. Là, moi, ce que j'aimerais rappeler vraiment au début, c'est j'ai repris un petit schéma. Bon, alors, j'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité, mais voyez le cheminement d'une plante depuis la semence. Jusqu'à le consommateur final, en fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est que dans l'agro-industrie, il y a plusieurs dizaines de personnes qui vont intervenir pour semer, cultiver, récolter, stocker, acheter, vendre, transformer, emballer et puis vendre aux consommateurs. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est nous. Donc nous, avec mon mari, on sème, on cultive, on récolte, on transforme, on emballe et on vend aux consommateurs. Et en ça, pour moi, c'est la meilleure traçabilité qu'on peut offrir aux consommateurs et la sécurité derrière qui en découle par rapport à l'utilisation de nos produits. Donc finalement, le fait de maîtriser cette chaîne de transformation de A à Z, on organise notre activité en fonction des bonnes conditions de récolte. Donc on choisit le bon moment, on choisit la bonne méthode, on fait l'impasse sur certaines récoltes ou certaines cultures, ou certaines cueillettes, pardon, quand les conditions ne sont pas réunies pour à viser cette qualité maximale de produits. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait qu'on a une transparence qui est totale. Une transparence par rapport à nos collègues qui viennent nous contrôler et qui peuvent aller fouiner exactement là où ils savent qu'il y a des risques sur le séchage ou sur des transformations, sur des cultures. Et il y a aussi une transparence par rapport au public, parce que nos petites fermes, elles sont ouvertes en permanence. Venez chez nous, on vous ouvre les portes, on vous montre nos cultures, on vous montre notre séchoir, notre manière de travailler. Et en ça, on ne peut pas tricher vis-à-vis de vous. Et vous pouvez venir nous juger la qualité de notre travail.
Alors, moi, je viens. Vous me dites, telle plante, ça va vous soigner telle chose. Bon, voilà. Vous avez le droit ou pas ?
Non, je n'ai pas le droit. Et si vous permettez, je vais juste, pour revenir, illustrer un peu ce que Guillaume a présenté tout à l'heure, vous montrer un petit peu, voilà, quand j'ai fait ma formation agricole, du coup, je n'avais pas idée de tout ça, là, de toute cette réglementation. Et voilà un petit peu ce à quoi on est confronté quand on sort d'un diplôme agricole et qu'on a envie de s'installer. Il faut qu'on connaisse, on doit connaître tout ça, on doit respecter toutes ces réglementations. Et le pire du pire, et ce qui est le plus lourd pour nous, c'est qu'on doit justifier qu'on les respecte. Donc vous avez la réglementation sur l'hygiène, sur l'étiquetage, sur la production. Et en fait, en premier lieu, nous, notre objectif, finalement, c'est d'arriver à produire pour vivre de notre activité. Donc au début, les premières années, on se concentre sur quoi ? Sur mettre en culture, cueillir, transformer et vendre nos produits, arriver à gagner notre vie de notre passion. Et c'est pas toujours très simple parce que derrière, il y a plein de démarches administratives à faire. Et par exemple, la première démarche que j'ai dû faire, c'était aller voir les douanes pour pouvoir acheter de l'alcool, pour pouvoir fabriquer mes compléments alimentaires. Et là, quand je suis allée voir le douanier, il me regardait avec des yeux ronds parce que pour lui, il n'y avait pas la case complément alimentaire, il n'y avait pas la case petit producteur. Et donc, les premières années, il m'a dit vous êtes un peu comme un pharmacien, vous faites des produits pharmaceutiques, donc vous ne payez pas les taxes. Et 2 ans après, il est revenu pour me dire qu'en fait, mes produits, vous voyez ces petits flacons de 30 millilitres là de gémothérapie, en fait ce sont des liqueurs, un peu comme de la vodka ou du whisky. Et du coup aujourd'hui je passe 10 jours par an pour déclarer tout ce que je vends, pour avoir une traçabilité en remplissant des tableaux Excel infinis qui me prennent un temps monstrueux pour payer 450 euros de taxes, dont 1/5 va servir à la lutte contre l'alcoolisme. Alors là le figuier par exemple que j'ai là, c'est quand même une plante qui va aider à soulager, à accompagner les gens qui sont en addiction par rapport à certains produits. Et du coup, je paye quand même une taxe pour... Enfin, voilà. Donc ça, c'était une première démarche qui était assez lourde et qui me pèse au quotidien parce que tous les mois, je dois déclarer ça. Et la deuxième démarche que j'ai faite, c'était par rapport à l'hygiène et la sécurité alimentaire. Donc je suis allée en encadrée par la chambre d'agriculture et la chambre m'a dit « Oh, vous n'avez pas fait votre plan de maîtrise sanitaire !» Et elle me dit, vous savez qu'en cas de contrôle, c'est grave, hein, vous pouvez avoir de gros problèmes. Donc j'ai fait une formation, 4 jours de formation, 3 mois de travail pour rédiger un document de 80 pages dans lequel j'écris tout ce que je fais, les petits schémas. Enfin, alors, pardon, excusez-moi, vous allez plus. Hop. Voilà, de faire des jolis schémas, de faire des jolis tableaux, de faire un document qui à moi ne me sert à rien parce que dans mon quotidien, je sais ce que j'ai à faire, je m'auto-contrôle en fait. Je n'ai pas besoin de me justifier à moi-même si j'ai bien cueilli ou si j'ai bien transformé. Mais au moins j'ai ce document, j'ai coché ma petite case, plan de maîtrise sanitaire, si j'ai un contrôle, je peux le sortir. Et par rapport à la réglementation, je suis dans les clous. Le seul avantage que je vois dans cette méthode, c'est que ça m'a fait appréhender mon métier sous l'angle du risque. C'est quoi le risque en fait ? Et si je l'applique à d'autres domaines, par exemple comme la cosmétique, c'est quoi le risque que je mélange ma racine de carotte dans de l'huile de tournesol et que je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle ? Ok, dans les huiles essentielles, il peut y avoir des allergènes. Donc c'est important que je vérifie, que je fasse une chromatographie pour vérifier la présence de ces allergènes, pour les noter sur le flacon. Mais après, c'est ok ? Eh ben non, parce que là, comme mon macérat d'huile de carotte, je le mets sur la peau, je suis dans le silo du cosmétique. Et derrière, pour moi, ça implique des tonnes de démarches.
C'est-à-dire que vous avez la même réglementation pour l'industrie lourde, on va dire, du cosmétique.
Exactement.
Que pour vous.
C'est L'Oréal et moi, c'est pareil. Et en fait, moi, je ne suis pas L'Oréal, quoi.
Mais vous le valez bien. Pourtant, vous le valez bien. C'est pas de...
Eh oui. Et je voulais juste saluer la démarche du syndicat Simple qui a réussi à proposer une solution alternative qui est la mutualisation de ces dossiers cosmétiques et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un petit peu plus de, je ne vais pas dire que c'est super agréable, mais de légèreté peut-être par rapport à l'appréhension de cette réglementation qui est hyper lourde. Alors juste ensuite, parce que vous avez vu, on fait plein de produits, du coup, on est soumis à tous ces petits silos-là de réglementation, les compléments alimentaires. Hop.
Et on se fait vite quand même.
Il faut que je fasse vite.
Oui.
Ouais. Donc du coup, les compléments alimentaires, ben là, pour le coup, c'est une formalité qui est assez simple et qui est gratuite. Et ça, c'est à souligner. Mais ça m'a fallu quand même 2 mois hein, pour mettre toutes mes étiquettes à jour, faire les déclarations, etc. Mais au moins, ça m'offre un cadre légal pour vendre mes produits. Et ce qui n'est pas le cas pour les tisanes, par exemple, dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est mon séchoir en été. C'est vraiment magnifique. Et c'est un plaisir de travailler dans ce milieu-là. Et comme vous voyez, j'ai du bleuet sur les clés. Et le bleuet, il n'est pas libéré. Le bleuet, il est encore en prison et j'ai pas le droit de le vendre. Et pourtant, je le vends. Et parce que ça fait des siècles et des siècles que les paysans cultivent le bleuet, le vendent et l'utilisent. Et aujourd'hui, je trouve ça incohérent, en fait. Comme disait Michel-Pierre, en fait, si je le fais en gélule, j'ai le droit de le vendre. Mais si je le vends comme ça, je risque la prison. Mmh. Et ça, c'est, pour moi, ça, c'est pas normal.
Vous avez 25% des médicaments vendus en pharmacie qui, effectivement, génèrent d'autres maladies. Mais ça, c'est bon, bref.
Juste pour terminer par rapport à la vente, parce que ça aussi, c'est un gros morceau de notre activité. Donc, nous, on est tout en vente directe. Il y a 70% des produits que je vends, je les vends directement aux consommateurs. Le reste, ça passe par des magasins locaux. Et effectivement, les gens qui viennent me voir aujourd'hui sont en attente de conseils. Ils ont envie d'autonomie, de reprendre la main sur leur santé. Et ils sont en demande d'informations sur les vertus des plantes et la manière de les utiliser. Et aujourd'hui, moi, je suis amenée à une autre fois me mettre en position de hors-la-loi, c'est-à-dire que je divulgue les vertus des plantes pour accompagner les gens, les mettre en garde par rapport aux usages, aux contre-indications. Et pour moi, ce rôle-là, j'ai envie de l'assumer parce qu'il me paraît important, notamment en milieu rural où c'est quand même un peu le désert pour avoir de l'information. Et aussi parce qu'aujourd'hui, le public, il va sur Internet, il trouve tout et n'importe quoi, et qu'il y a besoin de pouvoir accompagner les gens sur cette problématique-là.
Voilà. Je rappelle qu'il y a une information sur deux à peu près sur Internet qui est totalement fausse, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. On parle de fake news aujourd'hui, mais enfin bref, c'est des informations qui ne tiennent pas la route. Grand merci à vous pour ce témoignage. On est au cœur du problème. On préfère vos photos, si vous voulez, avec vos bleuets merveilleux, plutôt que celles avec tous les tableaux et Excel dans tous les sens. Mais ils sont nécessaires aussi, hein, monsieur Cousin, donc il faut aussi avoir tout ça pour être à peu près dans les clous. Henri-Joseph, où êtes-vous ? Ah oui, bah voilà. Henri-Joseph. Alors là, grand plaisir aussi. On fait un petit bond de 6000 km avec 6 heures aussi, donc de décalage horaire. 8000, allez, pardonne-moi. Donc 8000 km, 6 heures de décalage horaire, là, on est bon. Voilà, c'est parfait. Donc nous sommes où ça ? En Guadeloupe, vous imaginez un très joli papillon, vous avez Basse-Terre, vous avez Grande-Terre, vous avez la Soufrière, vous ne confondez pas avec le Piton des Neiges qui se trouve dans la Réunion. Non, vous avez donc Henri-Joseph, pharmacien, et aussi Cognost, voilà. Celui-là je l'avais pas encore, mais bon, voilà. Cofondateur du laboratoire Phyto Bocaz, pardon. Et là aussi, alors quelles sont les réactions de votre part, cher Henri, donc par rapport donc à cette, on va dire, réglementation, puisqu'on en est là. Donc comment on réagit par rapport à cela? Et alors là, on est sur un contexte qui est différent. On va juste rappeler quand même que 90%, là je parle de la biodiversité en général, je ne parle pas que des plantes, mais de la biodiversité se trouve donc chez nos amis des Outre-mer, que ce soit donc la Réunion déjà citée, la Guyane, qui attend avec beaucoup d'impatience une mine d'or, la Guadeloupe, la Martinique et ceux que j'oublie, les Saint-Pierre-et-Miquelon et quelques autres. Donc c'est quand même 90%. Où est-ce que l'on en est? Parce que là, on est sur des savoirs, on va dire, qui se sont transmis de manière complètement différente. Je sais pas, quand on voit effectivement cette réglementation-là, on sait que beaucoup de gens se soignent directement par les plantes, se foutent merveilleusement des différentes réglementations, mais parce que leurs ancêtres leur ont dit que ces plantes-là fonctionnaient pour le bien, pour le mal, voilà. Où en est-on et qu'est-ce que l'on peut faire avec ça?
Déjà, bonjour tout le monde. Hein. On va partager donc la partie juridique donc avec Maître Isabelle Robard, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 20 ans. Et vous voyez, on ne s'est jamais séparés. Et on a fait un grand combat. Et je vais lui laisser tout à l'heure la parole pour qu'elle puisse vous parler de ce grand combat. C'est exactement ce qu'a vécu Audrey dans ce qu'elle vient de nous dire. Alors la première chose, je vais aussi féliciter les sénateurs ultramarins, notamment le responsable du groupe parlementaire, M. Magra, ainsi que Guillaume, avec lesquels on a fait nos écoles ensemble, et la très bonne initiative de M. Joël Labbé, qui fait un travail remarquable. Et c'est très important parce qu'en fait, on est où là? On est dans la maison des sages, donc la maison chez les sénateurs, donc qui font des lois. Et en fin de compte, il faut savoir que c'est dans cette maison, en fait, qu'on sera dans le droit chemin. Et je compte sur vous pour nous emmener dans ce droit chemin, parce que les métiers de l'herboristerie, je peux vous dire, c'est quelque chose de totalement, c'est de l'évidence, c'est du bon sens, et vous allez gagner. De toute façon, c'est la seule, et c'est le seul et unique chemin qui puisse nous emmener justement à cette crise civilisationnelle que nous vivons aujourd'hui, et on n'a pas de solution. On n'a pas de solution parce qu'il y a une crise au niveau de la sécurité sociale. Il y a beaucoup de déficits, alors que les plantes médicinales peuvent vous maintenir en bonne santé et donc l'économie que vous gagnez, donc vous pouvez le réinjecter dans le développement durable, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité et le fait de prendre ce pari, je trouve ça magnifique. Ensuite, comme disait Didier Seychoux tout à l'heure, je vis sous une île de paradoxes. Venez d'entendre 97% des espaces marins outre-mer. 80% de la biodiversité de la France est en outre-mer. Donc il y a un tout petit pays qui s'appelle l'Hexagone, c'est vous là, avec un petit peu de Manche au nord, un petit peu d'océan Atlantique du côté de Biarritz, c'est un petit peu de Méditerranée du côté de Marseille. Ça représente que 3% d'espaces marins. 3%. Nous, c'est 97%. Avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, l'Atlantique, l'océan Indien. En fait, et ceci... Donc la partie marine, mais vous avez aussi la partie terrestre avec la Guyane, etc. Donc c'est 80% de la biodiversité. Au moment où nous sommes en pleine transition écologique, en pleine transition énergétique, donc les richesses de la France de demain, c'est pas dans l'Hexagone. Les richesses de la France de demain, c'est en Outre-mer. C'est chez nous. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas le droit d'exister. On n'a pas le droit à la parole. Et c'est pour ça que je viens ici... vous dire que j'ai besoin de vous dire que j'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'exister. Alors, pourquoi je parlais de paradoxe ? Déjà, il faut savoir que les premiers êtres vivants qui sont arrivés sous cet archipel guadeloupéen venaient d'Amérique du Sud. C'était les Arawaks, les Caraïbes et également les Siboneyes. Et ces peuples vivaient en symbiose avec la nature, aussi bien marine et terrestre. Ensuite, ils ont été exterminés, remplacés par des colons européens, en fait, qui ont amené des esclaves africains. Et ces esclaves africains, donc, ils faisaient comme ils pouvaient. Donc, je suis une terre de souffrance. Donc, dans cette terre de souffrance, en fait, non seulement ces esclaves, ils se soignaient avec la connaissance traditionnelle des plantes qu'ils avaient, mais le 8 mars 1799, juste après l'abolition de l'esclavage, les colons, ils avaient peur d'être empoisonnés par les plantes. Et voilà que le conseil souverain de l'époque dit, écoutez, il vous est interdit d'utiliser... les plantes médicinales pour vous soigner, sous peine de 500 francs d'amende pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchus de leurs 10 esclaves. Mon grand-père, je dis bien mon grand-père, c'est pas loin, mon grand-père, je suis le grand-père de mes deux enfants, mais mon grand-père est né en 1837, mon papa en 1888. Donc c'est pas très loin ça, c'est pas très loin. Donc, mon grand-père a vécu l'esclavage. Et ensuite, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Ensuite, on est devenu département français en 1946. Et quand on est devenu département français, 10 ans après, un petit enfant guadeloupéen, moi, je prenais naissance en 1955. Je fais des études de pharmacie. Je deviens pharmacien, docteur en pharmacie, docteur en pharmacognosie, qui est la connaissance du remède. Et là, j'arrive en Guadeloupe. Je suis dans ma pharmacie. On me dit, écoutez... vous ne pouvez pas vendre vos plantes, monsieur, parce qu'il vous est interdit de vendre, parce qu'il était interdit aux gens de couleur, noirs esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, etc. en 1790, mais c'est toujours valable. Oui, donc j'étais condamné à vendre tilleul, camomille, verveine, boldo, reine des prés, que des plantes de la métropole, sous prétexte que je suis français. Mais je n'ai pas le droit de vendre des plantes médicinales de chez moi. Donc on va faire un travail colossal, déjà. On va créer dans la Caraïbe un grand réseau qui s'appelle le réseau TRAMIL, Traditional Medicine for the Islands. En fait, c'est la médecine traditionnelle dans les îles, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait deux départements qui avaient droit à la médecine, c'était la Guadeloupe et la Martinique, et Haïti, ils n'ont pas le droit. Donc nous, on s'est dit qu'on avait des connaissances en tant que pharmacognos, chimistes, pharmacologues, etc. On a mis nos compétences au service de ces populations. On était 15 au départ, aujourd'hui on est 200 chercheurs. 30 pays de la Caraïbe qui met leurs compétences au service de la population pour qu'ils aient accès aux plantes. Et maintenant, en fait, Tramil, donc, a sorti la première pharmacopée caribéenne. Et là, quand on sort cette première pharmacopée caribéenne, qu'est-ce qui se passe? Je viens voir le gouvernement français pour lui dire, voilà, vous m'autorisez à vendre du tilleul pour dormir, mais donnez-moi la DL50 du tilleul, la mesure de la toxicité du tilleul. Ils ne sont pas fichus de me le donner. Vous ne savez pas? Donc, on m'autorise à vendre une plante dont je ne maîtrise pas sa toxicité, le tilleul, et on m'interdit de vendre le zèbre charpentier, Justicia pectoralis, dont je sais que sa DL50 est supérieure à 5000 mg par kilo, donc pas toxique. En plus de ça, je connais le principe actif qui est la sertraline, qui permet de dormir. Donc, il m'est interdit de vendre le zèbre charpentier dont je maîtrise la toxicité, le principe actif, mais il m'est autorisé de vendre une plante dont je ne maîtrise pas la toxicité. C'est une aberration. Donc, on va se battre. Et c'est là que je rencontre cette charmante dame, Maître Isabelle Robard, à Nice, en 1999, ça fait 20 ans. Je dis, maître, je suis président du syndicat des pharmaciens, je ne comprends pas pourquoi il ne m'est pas autorisé de vendre les plantes médicinales de mon jardin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Eh bien, je vous laisse la parole.
Isabelle Robard, je vous en prie. Donc, avocat spécialisé en droit de la santé, je vous en prie.
Oui, alors en fait, on s'est rencontrés à Nice en 1999. Je faisais justement une conférence sur la réglementation des plantes. Et je vois le docteur Joseph qui se lève et qui me dit « Vous savez, moi, je suis pharmacien. Et en fait, c'est très compliqué de vendre nos propres plantes en Outre-mer parce qu'elles ne sont pas entrées à la pharmacopée. On a beaucoup de problèmes. Et voilà, en gros, on prend des risques incalculables. » Donc, j'ai cru que c'était une plaisanterie. D'ailleurs, sur le coup, je ne l'ai absolument pas cru. J'ai dit « Oui, vous faites de l'humour. » Et en fait, j'ai vite découvert que ce n'était pas une blague. Et à partir de là, donc, bah, je lui ai dit « Écoutez, rapprochez-vous du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens parce que je pense que c'est eux qui vont probablement vous aider. » Et 2 ans après, ne voyant rien bouger, me dit « Écoutez, maintenant, ça commence à bien faire. Est-ce que vous pouvez provoquer une réforme du Code de la santé publique pour que notre pharmacopée ultramarine soit enfin prise en compte dans une république une et indivisible qu'est la France et qui comprend l'outre-mer français ?» Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que l'outre-mer dispose d'une ouverture de réglementation qui est inversement proportionnelle à la part de la biodiversité qu'elle représente dans la République française. 97% de la biodiversité est une réglementation inexistante, inadaptée. Bon, alors je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais donc faire de la veille juridique. En octobre 2001, le premier et le deuxième CIPAM, Congrès international des plantes aromatiques et médicinales, se tient à Guadeloupe, à Gosia, en Guadeloupe. Et je propose une réforme devant l'agence du médicament, professeur Robert Anton, madame Hanley, etc. Je dis voilà, il faut, pour qu'on avance de façon plus cohérente, réformer le code de la santé publique. Madame Michaud-Chuvry, à qui je rends hommage aujourd'hui, va se saisir immédiatement sénatrice de cette proposition de réforme et je vais porter donc ce travail, je vais faire des rapports, des notes juridiques, je vais faire tout un travail interministériel. Pendant 7 ans, le premier vote a été retoqué, l'affaire est passée à minuit moins le quart donc au Sénat. J'ai cru que j'allais descendre dans l'hémicycle, tellement j'ai... Bon, c'était assez incroyable de voir ce qui
le
se passait.
Le glyphosate est passé à 3h30 du matin, et donc vous avez été battu.
Voilà, donc il y avait quasiment personne à cette heure-là dans l'hémicycle, ça a été retoqué, mais... Ça a été très positif parce que ça a permis d'ouvrir le débat et de prendre connaissance d'un problème qui n'avait jamais été soulevé. Ensuite, j'ai dû faire voter, en fait, 4 fois la loi. J'ai réussi à faire voter ma réforme 3 fois. Il y a une grande victoire donc en mars 2003 où le gouvernement, donc d'un proposition de loi, ça va devenir un projet de loi. Le gouvernement va se saisir donc de la décision effectivement de réformer et on va avoir la loi de programme et l'ordonnance de santé publique ne sera jamais adoptée. Ensuite, il faudra prendre la loi Grenelle 1, mais ça ne sera pas suivi d'effet. Puis la loi Grenelle 2 et enfin nous arrivons au 27 mai 2009 et là je rends hommage en particulier à tous les sénateurs et députés antillais et en particulier à M. Victorin Lurel qui a été donc ministre de l'Outre-mer, à M. Serge les Tchimis parce qu'ils ont appuyé et ils ont tous reçu mes lettres recommandées à l'époque. Je ne faisais pas dans la dentelle. J'ai dit ça fait 7 ans que je me bats, 7 ans qu'on se paye ma tête. Et je remercie aussi le Sénat et la Commission des affaires sociales qui a eu le courage de m'avertir en me disant « Maître Robart, savez-vous que votre réforme est en train d'être retoquée sur pression du ministre de la Santé et de l'Agence du médicament ?» Donc c'est là que je me suis énervée. J'ai donc envoyé des lettres recommandées à l'ensemble des parlementaires antillais et la réforme est passée, pas là où nous pensions, mais dans la loi pour le développement économique de l'outre-mer. Ce sera la fin de la dernière résurgence de l'esclavagisme en France, puisque nous avions découvert le docteur Joseph et moi-même en faisant un tir croisé entre les archives de la Martinique et l'histoire du droit Codex, qui est devenu pharmacopée aujourd'hui, qu'en fait la dernière abolition de l'esclavage datant de 1848, le premier Codex datant de 1808, et bien entre 1808 et 1848, pour des raisons que Dr Joseph vient de vous expliquer, c'est que les nègres libres ou esclaves n'avaient pas le droit d'utiliser mais aussi de vendre à titre gracieux ou onéreux des plantes, sauf dans certains cas dans les empoisonnements, ce qui fait que nous avions totalement oublié l'outre-mer dans le système réglementaire. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire entrer les plantes ultramarines dans la pharmacopée française. Ça sert tout simplement à respecter la réglementation et à permettre de ne pas faire endosser, notamment au milieu pharmaceutique, une responsabilité accrue, puisque j'ai eu un cas d'ailleurs à défendre devant les institutions ordinales à ce sujet-là. Et nous avons donc pu parallèlement faire entrer au coup à coup deux plantes, Senalata Lipia Alba. Il a fallu 4 ans pour faire entrer deux plantes. Et à partir du moment où la réforme a été adoptée, les conseils interministériels pour l'outre-mer se sont mis en place et les différentes îles ont proposé des plantes. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 72 au sein de la pharmacopée française. Elles seront demain probablement encore très nombreuses puisque la Polynésie française ne s'est pas encore illustrée dans ce domaine, mais je pense qu'elle ne va pas tarder, et d'autres îles qui vont également faire cette demande. Alors aujourd'hui, c'est très bien, on a mené ce combat. Bon, on ne va pas se mettre des lauriers pendant 50 ans. Je voudrais être beaucoup plus pragmatique aujourd'hui pour dire qu'on est content, mais pas totalement satisfait, parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes en Outre-mer. Nous sommes là sur cette table ronde pour parler des problèmes. Alors je voudrais dire, un, que j'aimerais rapidement que sur cette liste de 72 plantes, nous puissions vérifier que, par extraordinaire, quelques-unes d'entre elles n'auraient pas des vertus autres que médicinales pour en permettre la libéralisation dans le texte de 2008. Deuxièmement, je voudrais également... Je parle d'ailleurs sous couvert de M. Guillaume Cousin, que j'avais eu à ce propos téléphoniquement, dire qu'il serait quand même hautement souhaitable que nous puissions réactualiser le texte du 24 juin 2014 qui fixe la liste des plantes autorisées à entrer dans les compléments alimentaires, mais où malheureusement vous ne trouverez pas par exemple l'abricopée des Antilles qui n'est pas présent dans ce texte, ou la warroie qui sont des fruits qu'on trouve couramment en Guyane qui n'y sont pas non plus. Vous ne trouverez pas le litchi de l'île de la Réunion. Vous ne trouverez pas également certaines variétés de bananes, qui fait qu'aujourd'hui, si je devais faire entrer un complément alimentaire à base de bananes d'une autre variété que celle de Musa paradisiaca, je ne pourrais pas le faire. Donc, je demande que l'on puisse réactualiser cette liste pour tenir compte de l'outre-mer, puisqu'aujourd'hui, nous sommes face à une rupture d'égalité devant la loi, qui veut dire que les métropolitains peuvent tranquillement faire enregistrer leurs compléments alimentaires, tandis que les Antillais sont encore en train de quémander pour savoir s'ils vont pouvoir le faire. Donc ça, c'est aussi pour moi une urgence qui me paraît rapidement comblable, dans la mesure où...
Et après,
où...
vous me faites un petit créneau parce que je vous sens très emballé. Donc
en outre... Dans la mesure où en Outre-mer, il y a des compétences, il y a des pharmaciens, il y a des pharmacognostes, il y a des botanistes, il y a des experts en Outre-mer. Il n'y a pas que des experts en France métropolitaine. Et donc très vite, on peut rassembler des listes avec leurs usages, les parties de plantes utilisées, les parties éventuellement à risque ou pas à risque, etc. Et réactualiser très rapidement cette liste. Et enfin, je terminerai par un autre spectre que je vois poindre rapidement, que j'avais pressenti il y a déjà 15 ans, c'est celui des novel food, des nouveaux ingrédients alimentaires, puisque l'outre-mer paraît très éloignée de la France métropolitaine, à telle enseigne qu'elle est oubliée dans la réglementation, et que finalement, comme ces plantes, ces parties de plantes n'ont pas été usitées nécessairement, n'ont pas couvert nécessairement l'ensemble du territoire métropolitain, et également de façon peut-être également souvent insuffisante au sein de l'Union européenne, on va se trouver confronté, c'est pas moi qui le dis, j'ai vu des rapports rapports dans ce domaine, donc je ne citerai pas, qui disent qu'en gros, eh bien, il faudrait retirer certaines plantes, même de la liste des plantes autorisées dans les compléments alimentaires, pour les faire passer en novel food. Alors là, je vous dis pas le dossier aussi pétaudière qu'il faut monter pour permettre à un aliment ou à une partie de plante, eh bien, d'accéder à ce statut de nouvel ingrédient alimentaire. Voilà. Donc autant d'entraves qui ne permettent pas aussi de tenir compte, ce sera le mot de ma conclusion, du véritable appel qu'a la population ultramarine pour le domaine des plantes, encore plus qu'en France métropolitaine. Et je pense qu'il est crucial, et là je ferai écho à ce que disait Guillaume Cousin, de tenir compte des usages traditionnels des plantes, parce que même en Outre-mer, et surtout en Outre-mer, la population les connaît tellement mieux que n'importe qui, puisqu'ils ont une culture avec les jardins créoles, et je pense qu'il faut vraiment adapter la réglementation à ces usages. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Quand on vous dit qu'à la fois l'écologie mais l'herboristerie est un sport de combat, je crois que vous en avez absolument la preuve, vous le savez au quotidien. Non, mais c'est passionnant, c'est absolument passionnant tout ce travail. Vous, évidemment, vous êtes une femme enthousiaste et on ne peut pas faire autrement que cela. Donc en même temps, c'est un pays qui est plein de paradoxes. C'est vrai que c'est très attachant, la Guadeloupe, c'est un pays. D'ailleurs, c'est un des pays, lorsque vous avez des yaourts qui arrivent là-bas, comme on aime le sucre, mais surtout on incite aussi les gens à en bouffer, vous avez plus de sucre dans les yaourts quand ils arrivent à la Guadeloupe qu'effectivement ailleurs. Ce qui fait que vous avez un taux d'obésité évidemment qui est plus important qu'ailleurs, parce que jusque-là tout va bien. Et quand vous parlez de bananes, c'est formidable. Moi je les prends uniquement si je suis sûr qu'il y a eu du chlordécone quand même dans le sol, qui va bien le pourrir entre un siècle et cinq siècles, parce que là c'est quand même drôlement intéressant. Et là aussi, la France, les États-Unis avaient quand même interdit ce fameux chlordécone bien avant la France, et nous on a freiné donc là-dessus. Évidemment que le charançon de la banane, il faut un petit peu l'exterminer, on est bien d'accord, mais ça c'est quand même aussi quelque chose, un vrai problème de santé qui est absolument majeur sur cette île, où il y a un peu de boulot quand même d'un point de vue écologique encore à faire. Je ne sais pas si je pose la question, Fanny, est-ce que Anne-Léane vous êtes là. Alors rejoignez-nous déjà, est-ce qu'on a encore de la place? Oui, déjà rejoignez-nous tranquillement. On va demander d'abord à Cyril Coulard. Cyril, vous êtes là, voilà. On va aller du côté de Marseille. Voilà, ça a été tout à l'heure, on a parlé un peu de la Méditerranée, là, comme ça. Donc, on va aller chez vous, parce que vous êtes pharmacien, vous êtes titulaire de l'herboristerie du père Blaise. Donc, on est à Marseille. Vous revendiquez d'ailleurs aussi le titre d'herboriste, comme les pharmaciens, loi de 1941. Donc, on se souvient pas forcément de cela, mais enfin, c'est quand même aussi la clé de l'affaire aujourd'hui. Mais en fait, vous allez après bien sûr vous aussi nous dire comment vous exercez par rapport à cette réglementation, mais en fait pour pouvoir exercer il faut que vous ayez quand même un chiffre d'affaires qui soit en médicaments classiques pour que ça puisse fonctionner.
Techniquement, c'est pas une obligation. Par contre, je suis obligé d'avoir une licence, donc d'être docteur en pharmacie et d'exercer au sein d'une officine, donc avec un agrément préfectoral qui me donne le droit de vendre des médicaments.
Alors donc maintenant, passe à cette réglementation, comment vous faites, vous, qui êtes pharmacien et herboriste?
Eh bien, on est...
Surtout avec les compléments alimentaires, là.
Alors, exactement. L'exemple des compléments alimentaires est presque risible. Il y a quelques années de ça, je rédigeais un cours sur les aspects juridiques et réglementaires de la phytothérapie en France. Et...
Alors, rapprochez-vous peut-être un petit peu, voilà,
je sais pas. Oui. Et je tombe donc sur une circulaire... Et je serais très curieux d'entendre l'ANSM derrière. Je tombe sur une circulaire de l'ARS de Rennes, datée de 2013, qui tolère que les pharmacies vendent des compléments alimentaires. Ok. À ma connaissance, il n'existe aucune restriction de vente sur les compléments alimentaires. N'importe qui peut les vendre. L'ARS tolère, merci l'ARS, que les pharmaciens vendent des compléments alimentaires. Ok. Mais par contre, considère qu'il est parfaitement illégal de les fabriquer au sein de sa pharmacie. Donc, nous pharmaciens qui travaillons avec un préparatoire agréé par l'ANSM, contrôlé par l'Agence régionale de santé, selon les bonnes pratiques de préparation officinale, voire même, comme moi, les bonnes pratiques de fabrication, qui intègrent, ou les GMPC, qui intègrent les bonnes pratiques de préparation officinale, avec des géluliers sous haut afflux laminaire, eh bien, je n'ai pas le droit de faire de gélules de prêle. Par contre, n'importe qui, sur la table de son salon, dans sa cave, oui. peut faire des gélules de prêle, les mettre sur le marché et les vendre sous réserve de les avoir déclarées sur Téléicaire, le portail européen de la DGCCRF, qui, heureusement, la DGCCRF, d'ailleurs merci, accompagne et aide pour la mise sur le marché de compléments alimentaires, est à l'écoute, c'est bien. Pour le complément alimentaire, c'est relativement simple. Pour la cosmétique, bon courage. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Guillaume parlait tout à l'heure de DIP, dossier information produit, qui impose d'avoir la signature d'un toxicologue, qui coûte cher. Ok.
Donc le mélange d'huile essentielle aussi, vous n'avez pas le droit de le faire.
Techniquement, non. C'est-à-dire que n'importe qui, c'est la grande mode en ce moment du do-it-yourself, va faire. Alors un blogueur va conseiller un mélange d'huile essentielle que n'importe qui peut faire devant Jean-Pierre Pernaut sur sa table de salon. Mais nous, pharmaciens, donc on travaille avec des pipettes.
Pernaut, c'est
des...
un journaliste, hein, c'est pas un médicament, Pernaut.
Comment
Guy Pernaut, c'est un journaliste, pas.
Donc. Voilà, on est pour moi sur un système un peu aberrant, oui. Tout comme d'ailleurs le monopole des pharmaciens, puisqu'effectivement, en effet, la vente des plantes médicinales, selon l'article L4211-1, donc la vente des plantes médicinales inscrite à la pharmacopée, relève du monopole des pharmaciens. Mais j'ai coutume de dire que les pharmaciens ont perdu ce monopole sur les plantes, et qu'ils n'en ont pas conscience, puisqu'aujourd'hui, le monopole des pharmaciens sur la plante ne concerne que la plante sèche. C'est-à-dire les 365 plantes inscrites à la pharmacopée française en histoire, moins les 148 libérées. Et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous disiez, dans le sens où vous ne pouvez pas mettre sur le marché. Mais en fait, si on peut mettre sur le marché, il n'y a plus aucun monopole des pharmaciens sur les plantes. Dans le sens où, sous forme de complément alimentaire, n'importe qui, sous réserve quand même d'avoir de gros moyens, peut passer par l'article 600, créer un dossier monstrueux, et mettre une plante, n'importe quelle plante, la faire passer, et Guillaume pourra le confirmer en article 600, et le mettre sur le marché sous forme de complément alimentaire. Ok. Bon.
Qu'est-ce qu'il faudrait profondément assouplir, on va employer ce mot-là, pour vous? Je sais que j'anticipe un petit peu, si vous voulez, sur les propositions de la famille, mais...
Juste avoir, je pense, un peu de bon sens. Dans le sens où, pour rappel, hein, le premier codex medicamentarius gallicus, hein, qui est la liste initiale des drogues végétales, qui est paru en 1818, qui a donné lieu à une liste de plantes en 97, qui a été révisée 15 ans plus tard, et qui scinde donc les plantes en deux listes. La liste A, donc les plantes médicinales utilisées traditionnellement en allopathie et pour certaines en homéopathie, et la liste B, donc la liste des plantes médicinales dont l'évaluation du rapport bénéfice-risque est négative pour une utilisation traditionnelle en préparation magistrale. Ok. Donc il est à noter que si les pharmaciens ont le droit de vendre l'ensemble des plantes inscrites à la pharmacopée, eh bien, moi j'ai questionné les ARS sur, par exemple, les conditions de délivrance de ces plantes, et tout particulièrement les conditions de délivrance des plantes inscrites à la liste B. Si on me demande de la Jusquiam ou de la Datura, toxique toute partie, est-ce que parce que j'ai le droit de les vendre, je dois la vendre? J'ai le droit d'en acheter. Là aussi, une autre aberration. En tant que pharmacien, et c'est extrêmement triste, je n'ai pas le droit de vous acheter de plantes. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ici, on a, je pense, beaucoup de malfrats, de bandits, puisque nous sommes tous hors la loi. Et vraiment, la réglementation, je reviens juste avant de revenir sur le fait que je ne puisse vous acheter de plantes médicinales. J'ai eu la chance de me faire contrôler par la DGCCRF il y a quelques années. Heureusement, avec une inspectrice dotée de bon sens et bienveillante, qui est venue me voir et qui m'a dit, mais là, l'étiquetage sur vos huiles essentielles n'est pas conforme. Ah. Elle me dit, bah, par exemple, là, sur le Melaleuca alternifolia, doit être marqué quelle est la posologie, docteur Coulard? Je sais pas, je peux en prendre 3 gouttes par jour. Ah, donc, il faut marquer l'équivalent en milligrammes que ça apporte. Donc, il est indispensable de marquer sur l'étiquette que 3 gouttes de Melaleuca alternifolia vont apporter 3,5 milligrammes. C'est vrai que c'est indispensable, hein. Et je lui dis, mais en fait, ça rentre sous quelle réglementation? Le titri, c'est le complément alimentaire. Ah, une huile essentielle, c'est un complément alimentaire. Ok. Ah bien, mais c'est pas que ça. Hein. Ça peut être aussi considéré comme un produit toxique et rentré sous le joug des produits. Enfin, il y a quatre réglementations. Soit c'est arôme alimentaire, complément alimentaire, diffusion ou cosmétique. Bien. Et je lui dis, qu'est-ce que je risque? Parce que pour moi, ça rentre dans aucune de ces quatre cases. C'est de la préparation officinale divisée. Ah oui, dont les textes ont été supprimés par la NSM. Donc, flou juridique sur la préparation officinale divinée. Et elle me dit, mais préparation officinale divisée, connais pas, moi. Ça doit être complément alimentaire. Ok, j'ai 358 huiles essentielles. Qu'est-ce que je risque? 5 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Par produit. Ah, ok. Bon. Alors, je crois que la peine de prison ferme n'est pas cumulative.
Non, mais derrière tout ça, parce qu'on est une société merveilleuse, si vous voulez, on est tous sur une paillasse de laboratoire, vous l'avez compris, entre la chimisation de la société depuis, on va dire, 70 ans. Je rappelle aussi une chose, quand même, tout de suite, parce que c'est que sans la chimie, on serait peut-être aussi tous morts. Donc, je n'oublie pas du tout cela, vraiment pas. J'essaye de ne pas faire d'amalgame, c'est comme pour le CO2. Enfin, bref, on fabrique des cancers à la pelle, etc. et tout. Je sais bien qu'on est tous inégaux par rapport à ça. Effectivement, on vous emmerde, c'est pas autre chose, si vous voulez, sur des allégations, sur pas des allégations, mais sur là-dessus. Profondément, vous gênez qui?
C'est une bonne question. J'ai l'impression que sans gêner personne, en fait, eh bien, on doit effectivement se mettre sous le joug d'une réglementation qui parfois,
parfois
a du sens. Mais en l'occurrence, dans le cadre de ma profession de pharmacien herboriste, eh bien, je suis soumis aux règles de la DGCCRF qui sont parfois antinomiques avec celles imposées par l'Agence régionale de santé. Exemple des allégations. L'ANSM a sorti en 2015 une monographie des mélanges de plantes pour tisane pour préparation officinale. Donc, l'ANSM considère les mélanges de plantes pour tisane comme de la préparation officinale. Ok. Donc, j'ai techniquement le droit de faire des allégations. Or, si je mets sur une tisane rhinite allergique, ce que certains confrères pharmaciens font, eh bien, la DGCRF peut venir me voir et me dire non, c'est de la denrée alimentaire, ce n'est pas une allégation autorisée, elle ne fait même pas partie des pending claims, donc des attentes, des allégations en attente d'approbation par l'European Food and Safety Administration, et là aussi me condamner à une peine de prison et de lourdes amendes. Et il se trouve que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un système à deux vitesses, parce que ici, je vois que nous sommes des petits acteurs et qu'en fait, n'importe qui, sous réserve d'avoir de gros moyens, je vous souhaiterais d'avoir un service de 11 personnes en réglementaire, avec des pharmaciens, des ingénieurs en affaires réglementaires, pour pouvoir respecter. Mais effectivement, nous ne sommes pas L'Oréal, nous ne sommes pas des labos qui pesons des centaines de millions d'euros, et ça rend les choses très compliquées. Voilà. Et qu'aujourd'hui, moi, je me tiens ici devant vous, non pas pour moi, non pas pour la pharmacie herboristerie du Père Blaise, mais vraiment pour défendre des métiers réunis autour d'une passion, celle de prendre soin de sa santé, de la santé des gens qu'on aime, de la santé de tout le monde naturellement, mais aussi et surtout pour tenter de préserver un patrimoine humain, un patrimoine culturel, un patrimoine de savoir-faire, un patrimoine du savoir. Et à quelques jours des élections européennes, face à d'autres pays d'Europe, souvent bien plus en avance que nous, sur le plan de la réglementation, de l'apprentissage, de l'enseignement, de l'utilisation des plantes, est-ce que vous souhaitez que nous soyons le dernier de la classe européenne? Et là, je m'adresse à la DGCRF, aux institutionnels, à la NSM. Souhaitez-vous rester dans l'immobilisme ou alors protéger, sauvegarder un savoir-faire ancestral? Souhaitez-vous assister à la lente mort des herboristes ou au contraire être le bouclier, les promoteurs des métiers de l'herboristerie?
C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste un mot très rapide en 28 secondes. Le père Blaise, c'était qui? Donc, parce que votre...
Saint Blaise, guérisseur de son métier, est venu poser ses valises à Marseille, dans une petite ruelle piétonne improbable, à quelques encablures du vieux port de Marseille. Donc il était guérisseur, il a posé ses valises à Marseille en 1815, et heureusement, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, ses descendants ont senti le vent tourner et ont apporté une composante un peu plus scientifique et médicale par le doctorat de pharmacie, ce qui leur a permis à partir de 1941 de continuer d'exercer dans la légalité, mais sous contrainte d'une réglementation, deux multiples réglementations qui parfois, trop souvent malheureusement, s'opposent.
Merci à vous, Cyril Coulard. Merci beaucoup. Anne-Lée, alors après, il va y avoir notre première séquence d'ouverture de questionnement. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, Anne-Lée nous a rejoint pour l'agence de sécurité donc du médicament. On a vu donc avec vous, Guillaume, donc la partie, on va dire, qui était non alimentaire, enfin sur la partie alimentaire. Maintenant, c'est la partie médicale qui nous intéresse. Donc, votre rôle, s'il vous plaît, le statut des plantes dans le domaine de la santé. Je vous en prie. Oui, vous appuyez sur lui.
Bonjour à tous. Désolée de mon retard. J'étais.
Ah ben vous venez, je sais pas, c'était Budapest ou Bucarest. Voilà. C'est un des deux, donc c'est pas la même chose, hein, mais enfin bon.
C'est les présidences européennes et on parlait homéopathie, là pour le coup. Ah oui. Aussi des médicaments qui n'ont pas fait.
Oui, parce que pardonnez-moi, je ne l'ai pas dit. Vous êtes chef produit médicaments homéopathiques à base de plantes et de préparations, donc voilà. Au sein
je
de.
Je suis en charge des autorisations de ce type de médicaments, mais également en charge des préparations. Au sein d'une division qui s'appelle la division des génériques.
N'hésitez pas, rapprochez-vous vraiment chez ça permet. Il faut se courber un petit peu ou bien. Allez-y. Voilà.
Donc je suis arrivée, j'ai entendu la fin, l'émotion. Je vais essayer d'être un peu moins. La présentation réglementaire est souvent un petit peu soporifique, mais je vais essayer d'être un peu plus animée.
Elle est nécessaire.
Donc juste pour vous rappeler que le rôle de l'ANSM, c'est de s'occuper des autorisations de médicaments. Nous, on définit comme médicaments les médicaments à base de plantes, mais on définit aussi comme médicaments les préparations magistrales et officinales, dont on vient d'évoquer le sujet. Et ces médicaments sont fabriqués avec des matières premières, qu'on appelle des matières premières à usage pharmaceutique, dans des conditions définies. Donc on gère au niveau de notre agence aussi tout ce qui relève des produits biologiques, tout ce qui relève des dispositifs médicaux. Et là aussi, on a des problèmes de frontières avec des dispositifs médicaux qui contiennent des plantes ou des huiles essentielles. Et on s'occupe également des produits cosmétiques et de tatouages. Donc on a une typologie de produits variés, des approches réglementaires aussi variées et on jongle un petit peu avec tout ça. Nos métiers au sein de cette grosse agence maintenant qui est assez volumineuse, c'est l'évaluation notamment du bénéfice-risque, mais des médicaments, donc qui par rapport à un bénéfice apporté. On a un rôle d'inspection des sites de fabrication de ces médicaments, de contrôle en laboratoire. On a également une expertise juridique et réglementaire qui a aussi pour rôle la qualification des produits. Donc, est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un cosmétique? Est-ce que c'est un dispositif médical? Et on travaille sur la communication et l'information de tout ça. Alors, j'attaque le médicament à base de plantes. Donc, en fait, on a trois possibilités d'autoriser des médicaments à base de plantes. Donc, d'abord, des médicaments qui ont démontré leur efficacité. Donc, il faut des essais cliniques. Et dans ce cas-là, on a des autorisations de mise sur le marché, soit complètes, donc des essais cliniques complets, toutes les batteries de tests, de sécurité, d'efficacité. Vous avez sans doute entendu parler du Sativex, donc les médicaments à base de cannabis, qui sont autorisés sous ce format-là. Ensuite, on a des médicaments qui sont autorisés sur la base d'une efficacité qui est publiée. Donc, un usage depuis 10 ans et une efficacité. Donc, dans les dossiers, on doit avoir des publications scientifiques qui démontrent l'efficacité de ces médicaments. Et ils sont autorisés sous cette forme. Et on a une autorisation de mise sur le marché aussi. Et puis enfin, donc depuis 2004, la directive européenne a été modifiée pour introduire au sein des médicaments la reconnaissance des médicaments traditionnels à base de plantes et qui repose sur une plausibilité d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils doivent être sur le marché avec une formule donnée depuis au moins 30 ans et au moins 15 ans dans un des États de l'Union européenne. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, dans ces conditions-là, et la reconnaissance du médicament traditionnel fait que on appelle ça, nous, un enregistrement. Mais en gros, c'est le même format de dossier, à part sur la partie efficacité. Donc, tout ça, c'est des spécialités pharmaceutiques. Ensuite, on a des préparations donc qui sont réalisées soit sur prescription médicale. Donc, on a des préparations à base de plantes avec une prescription, des conditions de réalisation au sein des officines de pharmacie ou qui peuvent être sous-traitées par des officines sous-traitantes. Et enfin, des préparations officinales qui sont aussi réalisées en officine, dont on évoquait le sujet tout à l'heure, qui sont notamment les préparations pour tisane, qui sont sous la responsabilité du pharmacien, qui sont des médicaments. Donc là, on est dans le cadre du médicament. Ce sont les ARS qui interviennent avec les réglementations du médicament. La difficulté, c'est de savoir où est-ce qu'on se trouve, qui fait quoi, où est-ce qu'on se trouve, on est sur quel produit, et on revendique quoi derrière. C'est le gros sujet, c'est pour une même plante, on peut avoir plein de statuts, mais en fonction de ce qu'on va revendiquer, on est dans les cases ou on n'est pas dans les cases. Et l'idée, peut-être, ce serait de créer une autre case ou d'essayer de rentrer selon les besoins et selon la réalité du terrain, puisqu'on est sur un état des lieux aujourd'hui. Donc, tous ces médicaments, on a aussi donc dans les officines de pharmacie les drogues végétales qui peuvent être vendues. Elles sont considérées comme matières premières. Donc, on a des drogues végétales, mais on a aussi des produits chimiques qui peuvent être vendus et commercialisés en tant que tels. On a aussi les huiles essentielles qui sont commercialisées en tant que telles. Elles sont aussi commercialisées en officine sous forme de compléments alimentaires. Donc là, c'est vrai que ce statut est un peu intellectuellement compliqué à comprendre, mais en tout cas. Sur les huiles essentielles, elles peuvent être vendues comme matière première, elles peuvent être vendues dans une préparation, sur prescription ou hors prescription. Voilà, tout ça, c'est soumis à la réglementation du médicament. Alors, comment est-ce qu'on autorise ces spécialités pharmaceutiques ? Donc ça, c'est des médicaments qui sont manufacturés, enfin qui sont préparés et fabriqués dans un site industriel qui va réaliser des médicaments avec des médicaments, des mélanges avec un étiquetage adapté qui ressemble à celui de tous les médicaments, une notice qui a le même format que tous les médicaments, qui soit avec efficacité démontrée ou traditionnelle. C'est une posologie, une indication. On sait exactement de quoi on parle, la matière première à usage pharmaceutique, que ce soit un extrait, une poudre, une feuille fragmentée, un extrait simple à queue, comme une tisane, ou un extrait complexe, traditionnel, éthanolique, avec de l'alcool, ou encore très complexe, avec du CO2 supercritique. On peut avoir toutes les gammes possibles dans ces spécialités. Voilà, mais c'est parfaitement défini dans la notice. Ensuite, on a une posologie qui est définie par jour, un maximum par jour, une durée d'emploi aussi qui est parfaitement définie. Et puis, dans cette notice, on a des conditions d'emploi, des précautions d'emploi, des populations particulières. Est-ce qu'on est sur, c'est autorisé chez l'enfant ? Est-ce que c'est autorisé chez la femme enceinte ? Est-ce qu'il y a des risques ? En fonction de la posologie qui va être étudiée. Tout ça, c'est étudié préalablement à l'autorisation, et tout cela va faire l'objet d'une évaluation au sein de notre agence. Et notre agence travaille aussi avec des expertises externes qui sont majoritairement des pharmacognoses des universités, et on s'assure qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec les compagnies, puisque c'est les règles générales qui s'appliquent. Donc ça, c'est très très important qu'on ait une expertise qui soit indépendante. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors donc, pour travailler sur l'efficacité plausible et l'efficacité démontrée, on a un travail d'harmonisation européen qui se fait au même titre que je vais au niveau homéopathique. Je vais aussi dans des groupes de travail européens qui sont censés travailler sur des monographies, donc dans ce cas-là, qui sont des monographies cadres de notice, qui ne sont pas des monographies de pharmacopée, et qui définissent pour l'ensemble des États membres, en fonction de ce dont on parle, une harmonisation de ces étiquetages de ces médicaments. Et tout cela va faciliter les autorisations. Voilà. J'ai du mal à tourner la tête en même temps.
Vous inquiétez pas.
En fait, aussi, comment, au niveau de ces États membres et au niveau de ce groupe de travail européen, on reconnaît la tradition, parce que je pense qu'ici, c'est aussi important qu'on comprenne chacun de quoi on parle quand on parle de tradition, quand on parle d'usage, quand on parle de méthodologie de reconnaissance de ce qui est traditionnel et comment est-ce qu'on l'utilise. Donc au niveau du médicament traditionnel, nous on s'appuie sur cinq pivots, enfin un certain nombre de pivots qui sont décrits, qui sont publiés avec des lignes directrices européennes et qui notamment vont définir, alors j'essaie de me retrouver dans mes pages, qui vont donc définir donc un usage médicinal reconnu depuis 30 ans, donc je vous l'évoquais tout à l'heure, et 15 ans dans un État membre. Mais donc on va faire un état des lieux de l'ensemble des produits qui ont été autorisés dans les États membres. On va choisir une formule donnée. Une indication va être octroyée pour cette formule donnée. Et on va s'appuyer sur des dosages de ces préparations. Des types de préparation bien définis, une administration uniquement orale ou externe pour la traditionnelle, une posologie journalière qui sera définie, donc je vous ai déjà évoqué, des populations et des conditions d'emploi. Je me répète un peu, mais voilà. C'est reconnu par, et c'est des façons de travailler qui sont harmonisées au niveau européen et qui sont publiées, tout est public, tous les travaux sont publics. Donc vous pouvez regarder tout ça, c'est en ligne sur les sites de l'Agence européenne. Alors, on encadre aussi donc les préparations magistrales, donc pour un patient particulier, et les préparations officinales qui sont inscrites à la pharmacopée. Donc, ça, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on appelle pharmacopée. Il y a aussi parfois des difficultés d'interprétation sur les terminologies. Donc, quand on parle de pharmacopée, au sens pharmaceutique, c'est un recueil de standards de qualité. Donc on va décrire des recettes qui vont permettre d'identifier, de doser, de s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides, de s'assurer qu'on ne s'est pas trompé de plante, qu'on est sur la bonne pente, qu'il n'y a pas de falsification possible. Et tout ça, ça va définir des standards de pharmacopée sur le plan de la qualité des produits qui sont inscrits dans cette pharmacopée. Et puis, donc c'est différent d'une ce qu'on appelle la pharmacopée au sens littéral, de toute la pharmacopée qui permet un traitement. Donc il ne faut pas faire de confusion. Donc nous, quand on parle de pharmacopée, on parle de standard. Quand on parle d'autres pharmacopées, ce n'est pas forcément la même approche. Et donc il ne faut pas faire de confusion. Voilà. Et dans le cadre des préparations, on élabore aussi les bonnes pratiques de préparation. Donc effectivement, quand on est en officine, on est censé utiliser des matières premières qui sont à usage pharmaceutique, qui sont conformes à ces standards de qualité de pharmacopée, qui permettent d'assurer une reproductibilité, qui donnent des plantes qui sont toujours de la même qualité, avec le même dosage, et quelles que soient les conditions et les périodes de récolte, les années, etc. Donc c'est des produits des matières premières qui sont reproductibles l'eau à l'eau et définies dans un cadre pharmaceutique. Voilà, on élabore aussi, on prend aussi des mesures de police sanitaire dès lors qu'il y a des risques par rapport à où on a vu des cas de pharmacovigilance. Donc ça a été le cas sur la badiane de Chine, donc là on était aussi en phase avec l'alimentaire, avec les falsifications, on a eu des cas de convulsion, on a pris des mesures qui on a par contre parfois on est sur une approche différente par rapport à la mesure de risque, parce qu'on est aussi, on évalue le risque par rapport à un bénéfice. Donc, on peut avoir des distorsions avec l'alimentaire sur les mesures de police sanitaire qu'on peut prendre au niveau de notre agence. Voilà, donc je reviens sur la pharmacopée. Donc au niveau européen, il y a des standards qualité qui sont bien définis. Quand on parle de liste des plantes médicinales de la pharmacopée, là, on est sur une réglementation nationale. Donc cette liste de plantes de la pharmacopée, donc là, on parlait de la liste A, de la liste B, elle a été construite petit à petit, effectivement, issue des codex, des anciens codex. Elle est uniquement une liste qui recense un usage traditionnel de ces plantes au sein historiquement des pharmacies et elle est régulièrement mise à jour et elle a été mise à jour déjà deux fois et on continue de la mettre à jour en fonction des événements. Mais cette liste de la pharmacopée française, elle a été conçue et elle continue de vivre sur la base d'une réglementation pharmaceutique. Donc effectivement, historiquement et du temps des herboristes des années 40, il y avait des plantes comme les queues de cerises, etc., qui font que cette liste, un certain nombre de plantes de ces listes sont sorties de ce monopole pharmaceutique, mais en tout état de cause, maintenant, les plantes qui sont sorties de cette liste, elles sont sorties sur des critères qui sont définis parce qu'elles ont un usage alimentaire ou condimentaire, mais pas d'autres critères au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc juste actuellement, on est sur 458 plantes. La liste B avec une approche bénéfice-risque négatif, mais parce que l'idée, c'était aussi de se dire il y a eu un usage et de garder la trace de cet usage traditionnel, même si au plan pharmaceutique, on a estimé que soit elles étaient toxiques, soit avaient fait l'objet de mesures de police sanitaire, soit il fallait identifier qu'il était préférable de ne pas les utiliser, mais le pharmacien, il a son domaine d'expertise. Et alors, je voulais quand même vous mettre en évidence que depuis 2001, depuis la loi des Outre-mer, on a intégré 86 plantes médicinales. Et pourquoi ça a mis autant de temps? Parce qu'au départ, personne ne travaillait dessus. Dès lors qu'il y a eu des financements, qu'il y a eu une démarche particulière, les travaux ont pu être faits. Sinon, on travaillait sur des groupes d'experts qui étaient sur du volontariat. Et que c'est vrai qu'une centaine de plantes, ça doit être évalué, ça doit être construit sur la base d'un dossier qui reconnaît un certain nombre de critères. Et donc,
tout ça, on l'entend très bien. Alors, je sais bien que c'est dans votre rôle, si vous voulez, c'est difficile de répondre à ça, mais on est avec nos 148 plantes aujourd'hui. Je veux dire qu'une majorité de personnes, effectivement, dans la salle se disent, bon, si on arrivait autour de 300, ce serait pas mal. Avec tous les critères que vous mettez absolument en avant, est-ce que vous pensez quand même que dans le sens de l'histoire, c'est en train de se débloquer gentiment, cette affaire-là
Je pense que c'est tout à fait débloqué. Enfin, c'est la réalité du terrain, donc il faut pas se cacher. Oui. Il faut plutôt repenser cette liste qui n'a pour vocation que pharmaceutique, voilà, et n'a pas pour vocation de sortir du pharmaceutique.
C'est ça.
Donc
oui,
il faut travailler sur qu'est-ce qui est hors pharmaceutique et pourquoi. Est-ce que c'est pour un bien-être? Est-ce que c'est pour un vrai usage thérapeutique? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est pour qui? On travaille comment? Comment est-ce qu'on reconnaît cette tradition, cet usage? Si ce n'est pas les mêmes critères que ceux qui sont reconnus au niveau pharmaceutique, ça c'est une démarche commune qui peut être menée, mais peut-être pas par le biais de... Enfin, il faut créer une vraie liste qui soit adaptée aux besoins et pas essayer de faire rentrer du pharmaceutique dans du hors pharmaceutique.
D'accord.
On le voit très bien, même au niveau des Outre-mer. Le sujet, ce n'est pas est-ce que les 86 plantes sont toutes dans les officines d'Outre-mer? Je pose la question. En vrac, est-ce que le sujet, c'est de faire des produits manufacturés en complément alimentaire? Est-ce que le sujet, dans ce cas-là, on est dans une autre réglementation, on a un étiquetage différent, on a des revendications, des allégations différentes? Est-ce qu'on est sur du vrac avec comment est conçu le conseil? Voilà, tout ça, c'est vraiment très important.
Donc je peux arrêter là si vous préférez.
Oui, parce que là, on est, je préfère que vous répondiez effectivement aux questions, parce que là, effectivement, vous avez fait déjà un très bel exposé, mais on a une vingtaine de minutes là, donc on a de quoi se dire des choses. Donc je vous en prie, on va avoir effectivement peut-être... Oui, voilà, nous avons au moins un micro, ce qui est pas mal. Deuxième, oui. Et moi, j'ai piqué le troisième, parce que c'est plus simple pour bosser comme ça. Donc, je vous en prie. Alors, vous présentez rapidement, non pas votre vie, votre œuvre, mais les uns les autres. Et puis, ben voilà. Donc, on y va. Deuxième rang, avec grand plaisir, monsieur.
Bonjour. Moi, je suis médecin généraliste à Bourg-en-Bresse. Je pratique la phytothérapie depuis 25 ans. Et je voudrais illustrer tout à fait ce qui s'est dit dans un petit peu le parcours de combattant de ce que je vis au quotidien. Donc il y a 25 ans, Madame M venait prendre conseil pour un suivi en phytothérapie, ou du moins avoir un conseil de phytothérapie. Elle allait voir un herboriste qui pouvait éventuellement lui rendre service, voire même souvent, dans la plupart du temps. Et s'il y avait un problème médical un peu plus important, elle allait voir quelqu'un qui faisait de la phytothérapie, un phytothérapeute, qui faisait éventuellement une préparation magistrale, confiée au pharmacien, qui faisait cette préparation magistrale. Et on avait un suivi, en tout cas de cette patiente, ou en tout cas de cette demande, avec une certaine sécurité. Toute la réglementation vise à augmenter la sécurité. Or, en 2019, la fille de Madame M, si elle veut faire le même parcours, ne peut pas. Elle ne peut pas prendre conseil auprès d'un herboriste. Et si elle vient voir un médecin généraliste, qui pratique la phyto, qui donne une préparation magistrale, on se heurte à une difficulté de faire réaliser cette préparation magistrale, soit parce que les plantes se sont tellement restreintes que les préparations magistrales ne sont plus possibles, soit que la réglementation imposée aux pharmaciens ne lui permet pas de faire cette préparation magistrale, soit éventuellement qu'il y a l'impossibilité de se procurer tout à fait une plante qui traditionnellement est utilisée. S'ensuit qu'actuellement, la fille de Madame M ira sur Internet, commander son produit à l'autre bout du monde, fera sa préparation sur sa table de cuisine, sans aucun contrôle, sans aucun conseil. Moi, ma question, elle est, est-ce que la sécurité en a gagné? Et deuxièmement, si on pense que à l'avenir, on pratique une sécurité autour du médicament, est-ce que la sécurité n'est pas aussi la pertinence du conseil et de la prescription et du suivi.
Merci beaucoup. Je précise qu'à Bourg-en-Bresse, on dit Bourg, hein, je crois, me semble-t-il. Voilà, même si c'est écrit Bourg dans l'Ain. Vous avez la très belle église de Brou à côté. Rien à voir avec le Brou de Noir, hein. On est bien d'accord. Mais il y avait déjà à l'époque, effectivement, des moines qui étaient herboristes. Voilà, donc c'est une interrogation, évidemment, que l'on se pose. Alors, ce que je vous propose...
Je partage exactement les mêmes problématiques, mais du côté du pharmacien. Si je me retrouve dans la situation aberrante, où des gens sont obligés d'envoyer de Dunkerque leur ordonnance, parce qu'aujourd'hui, je suis un des seuls préparatoires à avoir, et je me bats pour continuer d'avoir un maximum de produits, de plantes sous différentes formes. Mais là aussi, par exemple, je vais trouver, et je prends des risques, j'engage ma responsabilité pénale, parce que dans le cadre de la préparation magistrale, je suis obligé effectivement de travailler avec des MPUP, matières premières à usage pharmaceutique, dont parfois la qualité laisse vraiment à désirer, et qui vont être libérées par un pharmacien libérateur, certifié conforme en l'absence de meilleures poudres. Moi, à mon échelle, je trouve des poudres de meilleure qualité en complément alimentaire. Et malheureusement, par exemple, je pourrais vous acheter ou acheter à Thierry de la poudre de prêle parce que j'estime qu'elle est de meilleure qualité. Je ne peux pas leur en acheter directement parce que ils ont pas, vous allez, je pense pas pouvoir faire les à peu près 1000 euros d'analyse qui a à faire sur les 3 kilos de prêle, on en parlait la dernière fois au congrès des herboristes à Angers, ce qui donc du coup augmenterait le prix au kilo de 333 euros. On marche sur la tête. Hein. Si jamais je décide de mettre cette prêle en gélule, c'est impossible pour une préparation magistrale, ça va être très compliqué pour du complément alimentaire, puisque à nouveau, on change de forme galénique, il faut refaire ces analyses. Et que là aussi, est-ce que vous êtes à même de afin d'être conforme à la réglementation, ne serait-ce que de sortir un certificat d'alimentarité, parce que les contrôles sont différents pour l'alimentaire ou pour la matière première à usage pharmaceutique. Et moi, aujourd'hui, un de mes jobs, c'est de me casser la tête pour trouver de la poudre de bonne qualité. Et je ne devrais pas le dire, mais je me retrouve à faire, pas le dire devant la NSM, à faire des préparations magistrales avec des poudres de qualité alimentaire, donc dans l'illégalité, parce que, et j'engage ma responsabilité pénale dessus, elles sont de meilleure qualité que celles proposées par les rares fournisseurs établissements pharmaceutiques qui proposent des matières premières à usage pharmaceutique.
Voilà. Et vous avez, il faut le dire, beaucoup moins de morts sur la conscience qu'après un match de l'OM contre le Paris Saint-Germain. Donc là, c'est autre chose, vous voyez, d'un point de vue. Bon, bref. Mais c'est intéressant parce qu'on avait donc ce témoignage de notre ami médecin et donc le pendant aussi avec la réponse de notre ami pharmacien. Je vous en prie, madame. Thierry, je ne t'oublie pas. On vous passe le micro.
Alors, bonjour.
Ça va venir. Attendez,
ça va venir. Bon, d'accord. Je suis gérante d'une herboristerie.
Non, ça ne vient toujours pas. Donc, effectivement, on va essayer d'avoir le. Je sais pas du. Non, c'est pas de votre faute du tout. Alors, simplement, de manière générale,
merci.
Ne mettez pas la main sur le. Parce que l'antenne est là. Voilà.
Merci. Non.
Non, toujours pas. Alors, est-ce que nous avons notre micro? Oui. Attendez, on va vous le passer. C'est mieux. Voilà, c'est formidable. Allez.
Oui, bonjour. Voilà. Alors, moi, je suis gérante d'une herboristerie dans un petit pays perdu. Et je voulais rebondir parce que nous
aussi... Juste le pays perdu, c'est où?
C'est Gap, c'est les Hautes-Alpes. C'est alors, là-bas, à l'autre bout de la France.
C'est la préfecture
Nous sommes venus par le train de nuit parce qu'il y en a encore un chez nous.
Vous avez encore un train de nuit qui s'appelle le Briançonnais. C'est quand même, si vous voulez, dans un bassin quand même assez merveilleux. Donc, on est au pied du col Bayard et de la Sentinelle du Champsaur. C'est pas totalement perdu. Vous avez 120 000 habitants, chère madame. Voilà.
Oui, mais enfin bon,
vous avez
Gap,
vous avez
Embrun,
après vous
Bordeaux,
avez Briançon, donc etc. C'est. Mais enfin voilà, donc très bien.
On est quand même dans la campagne.
Oui.
Et je voulais rebondir parce que ce que vivent ces messieurs, nous le vivons aussi. C'est-à-dire que nous avons des gens qui ont besoin de produits. Alors nous, c'est pas simple pour nous. On nous demande des plantes que nous n'avons pas le droit de vendre. Les gens viennent nous voir parce que eux, ils savent plus à quel saint se vouer. Mais on n'a pas le droit de leur donner des conseils. Et ils arrivent là, parfois avec des préparations qu'ils ont prises sur Internet, et on est obligé de donner des conseils, parce que là, on voit des choses tellement farfelues et tellement abominables, et puis on se retrouve avec des dames qui me disent « Ah, mais pour dans tel livre, j'ai lu qu'il me fallait, pour la ménopause, pour les bouffées de chaleur, prendre de la tisane de gui, que je vais commander en Belgique. »
Bien sûr.
Alors moi, bien entendu, je n'aurais jamais donné du gui, mais voilà, on se retrouve dans des situations absolument abominables. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'actuellement, la législation est telle que nous ne pouvons pas travailler réellement dans ce qui devrait être notre cœur de travail, c'est le conseil, et qu'en attendant, il y a des do-it-yourself partout sur Internet, et les gens font n'importe quoi. Nous sommes dans un monde où n'importe qui fait n'importe quoi.
Alors,
s'il vous plaît, permettez-nous de travailler.
Ah oui, bien
c'est
sûr.
Ce que je demande actuellement à tout le monde. Permettez-nous de faire un travail. On a de la chance d'avoir des écoles qui nous ont bien formés.
Oui.
On a de la chance, mais on ne peut plus rien faire.
On donnera la parole aux écoles donc, cet après-midi. Je vous en prie. Ah bah.
Bonjour, je suis l'époux de Nicole.
Voilà. Donc toujours dans les Hautes-Alpes.
Toujours dans les Hautes-Alpes.
Toujours dans les. Voilà.
L'herboristerie des Hautes-Alpes.
Eh oui.
Nous sommes scientifiques. Elle est généticienne de formation. Moi, je suis biochimiste. Nous n'avons le droit de rien faire. Et aujourd'hui, très souvent, les pharmaciens de la région nous envoient du monde pour venir chercher des plantes ou des tisanes. Ou des explications. Et que devons-nous faire? Comment peut-on travailler? On essaye de travailler avec un maximum de rigueur, mais on tombe sous le coup de la loi sans arrêt,
alors,
malheureusement.
Guillaume, je sais que c'est bon, vous avez un devoir de réserve, vous êtes fonctionnaire, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut peut-être répondre peut-être à monsieur, enfin, par rapport à cela aujourd'hui, vous voyez bien que la société donc évolue, les uns et les autres. Donc, non, l'exercice n'est pas facile. Hein. Je ne sais pas, vous répondez oui, non, peut-être, ne sais pas, enfin, je ne sais pas, vous faites.
Non, je voulais juste quand même clarifier un point très très important que je n'ai pas dit dans mon énoncé, c'est qu'effectivement, il est interdit pour qui que ce soit en dehors des professionnels de santé de revendiquer des effets thérapeutiques. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de difficulté. Lorsque effectivement des consommateurs viennent voir des herboristes en demandant des conseils. Donc interdiction de parler de traitement de maladie sous peine de faire de l'exercice illégal de la médecine.
Totale. Bon, on peut continuer. Ouais, ouais.
Ensuite, il y a toute la partie qu'on pourrait appeler communication santé, c'est-à-dire revendication d'effets sur le bon fonctionnement. Je parlais tout à l'heure de l'humeur avec le millepertuis, où là, effectivement, la difficulté vient d'un règlement européen qui, comme je le disais, ne prend pas en compte pour l'instant cette notion de tradition. Et là, je pense qu'il y a quand même tout un travail qui doit être fait déjà au niveau européen, mais même qui pourrait être fait au niveau national, sous réserve d'avoir une volonté politique forte d'essayer de trouver une solution, parce que la situation est bloquée depuis maintenant 10 ans. Donc je pense que dans ce contexte, il est important que la France et les États membres poussent au niveau européen, mais aussi peut-être tirent les conséquences de cette situation au niveau national. Mais ça ne résoudra pas la totalité du problème sur la partie communication, puisqu'il y a toujours cette interdiction formelle et stricte.
Le millepertuis est un très bon exemple.
De parler de pathologie.
Le millepertuis est un très bon exemple parce qu'il bénéficie, en tant que complément alimentaire, d'une allégation. Alors, je n'ai pas la phrase exacte parce qu'il faut respecter la phrase à la virgule près, mais donc, et c'est là où on marche sur la tête. On peut marquer sur une boîte de gélules de millepertuis que ça peut servir à traiter une anxiété légère. Je crois que c'est les termes utilisés. Très bien. Donc, monsieur et madame Lhomme n'ont pas le droit de conseiller ni de vendre le millepertuis pour faire une tisane, sachant que, parce qu'ils ont les connaissances, ils vont dire, mais attention, si c'est une jeune femme de 25 ans, ça m'est arrivé dans un magasin bio au pied de chez moi il y a quelques mois de ça, où la vendeuse, du coup, sans aucune qualification, conseille pour une anxiété légère, elle lit sur la boîte, anxiété légère, elle donne la boîte de millepertuis à la jeune femme de 25 ans. Ok. Alors, c'est ce que Jacques Florentin, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, appelle les bébés du millepertuis. Le millepertuis a des interactions avec tout un tas de médicaments, dont la pilule progestative. Et ça, par contre, la DGCCRF n'impose pas de le marquer. C'est quand même un effet majeur du millepertuis. Et non.
Si, parce que Guillaume me dit si.
Il n'y a aucune obligation de marquer les interactions sur le complément alimentaire et tout particulièrement sur le millepertuis. Malheureusement. Bon. Il y a certaines précautions d'emploi obligatoires sur le millepertuis, je vous invite à vérifier. Il n'y a pas les interactions, malheureusement, avec les différents médicaments.
Oui, c'est ça. Donc, j'étais juste sur le millepertuis, si vous voulez, par rapport à la natalité française. Donc, j'étais en train de poser les questions à Michel Pierre. Donc, Jacques Florentin, qui est donc lui-même pharmacien à Voipy. Nous sommes à côté de Metz. Je vous en prie, nous avons une question qui est... Oui, madame.
Oui, bonjour, Frédéric Basset, journaliste environnement. Je voulais poser deux questions. La première à Anne-Lé, vous avez parlé de la reconnaissance de la tradition et dans ce cadre de l'usage médicinal reconnu depuis 30 ans ou 15 ans dans un État membre. Pourquoi ce hiatus de 15 ans entre les deux?
C'est le législateur qui a posé cette condition.
Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, c'est bien c'est le législateur, donc vous disiez.
C'est le législateur, c'était voilà. Des propositions qui venaient du UK à l'époque.
Législateur européen.
Je ne peux pas vous dire là, pourquoi 15 ans, mais en tout cas, c'est ce qu'on applique, voilà, bêtement. Mais en tout cas, il faut 30 ans en tout.
Oui, mais 30 ans pour la France et 15 ans pour les États membres, si j'ai bien compris.
Non, il faut 30 ans pour reconnaître la tradition, en gros.
Oui, mais c'est ce que j'ai noté aussi. Moi, c'est effectivement 30 ans, c'était plutôt pour... Alors, 15 ans pour...
30 ans dans le monde entier et donc 15 ans dans l'Union Européenne, dans un des États membres.
D'accord, ok.
Oui, c'est pas une somme. Hein.
C'est plus clair.
Donc d'accord. C'est ça, oui, ça veut dire qu'on est deux fois plus malin que le reste du monde. C'est un peu...
Et l'autre, j'avais une autre demande, une autre remarque. Tout à l'heure, Denis Chessot, vous avez demandé à Cyril Coulard qui gênait-il.
Et bon, je pense que vous avez répondu, Cyril Coulard, un petit peu en biaisant. Je pense que les labos pharmaceutiques sont très gênés quand même par les herboristes. Et est-ce qu'on ne peut pas inventer un lobby des herboristes pour contrer le lobby des pharmaciens ?
Je dis parfois...
Alors, c'est pas le lobby des pharmaciens, hein. C'est le lobby des gros industriels et des big pharma. Parce que moi, en tant que pharmacien, je me sens tout petit et je pense que je galère comme beaucoup d'autres.
Alors, si je vous en prie, note. Oui, c'est bon. Je cherchais donc.
Je voulais juste rebondir sur les 15 ans. En logique, en fait, il faut savoir que quand on établit une réglementation au sein de l'Union européenne, hein, c'est l'union des 28 États membres, on se fixe sur une harmonisation. C'est-à-dire qu'on fait du droit comparé. On prend c'est ce qui s'est passé pour la directive 2002/46/CE de juin qui a légalisé le statut juridique du complément alimentaire. On a pris toutes les formes galéniques présentes dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il s'avère qu'on a pris la réglementation la plus évoluée, en l'occurrence c'était la Belgique, et on a pris toutes les formes galéniques qu'on trouve dans cette directive. Et là, je pense qu'en logique, c'est ce qui a dû se passer. Alors méthodologiquement, ils ont pris les pays, ce qui se passait, ils ont fait une moyenne, et ils ont dû se dire, avec le recul, on va définir 15 ans au sein de l'Union européenne. Mais en fait, c'était pas pour ça que j'avais levé la main tout à l'heure, mais c'était pour rebondir sur les allégations. Faut pas mélanger les choses. Il y a d'une part les allégations sur l'étiquetage et ce qu'on va faire porter autour du produit, que ce soit verbalement ou par écrit, et les allégations dans tout ce qui n'est pas du médicament, tout ce qui a une vocation de traitement de pathologie, traitement de maladie, etc., est strictement interdit. Et après, il y a la connaissance qu'on va avoir de la plante et l'acteur qui va véhiculer cette connaissance et qui va être au carrefour finalement d'un autre problème, qui est celui qui a été soulevé par M. Cousin. C'est l'exercice illégal de la médecine. Bon, c'est un sujet que je connais bien puisque je l'ai étudié depuis le Moyen-Âge. Et en fait, on s'aperçoit qu'au niveau jurisprudentiel, il y a quand même une évolution de la jurisprudence en matière d'exercice illégal de la médecine. Et là, je parle du conseil intrinsèque au niveau du produit. Dès qu'on est dans le bien-être, optimiser son énergie, son capital santé, etc., il n'y a plus de problème actuellement en matière d'exercice illégal de la médecine. Mais dès qu'on bascule, sachant qu'il faut aussi prétendre poser un diagnostic, c'est là où il y a des limites, c'est-à-dire que si vous posez un diagnostic, c'est que vous allez avoir une personne devant vous et vous allez dire, bah, au vu de ça, c'est quoi le diagnostic ? C'est le diagnostic nosologique, c'est-à-dire le fait de prendre un certain nombre de symptômes et les ramener à une maladie nommément définie qu'on appelle la maladie ou la pathologie dont est porteuse la personne. Donc ça, c'est strictement interdit, ça relève d'une consultation individualisée avec un docteur en médecine dûment inscrit à l'ordre des médecins. Ensuite, que la plante ait des vertus, des risques, etc. C'est ça, je pense, sur cette direction-là qu'il faut partir, et non pas sur la direction de poser un diagnostic médical en tant que tel, mais c'est de dire, voilà, il y a une connaissance de la plante, jusqu'où on peut aller et quelles sont les limites. Voilà.
Merci à vous, Isabelle. Je vous en prie, on vous passe le micro tout de suite. Monsieur aussi, donc, allez-y, 1, 2, 3. Pardon, vous l'avez, parfait. 1, 2 et 3, on y va.
Bonjour, je suis Lucille Cornet-Vernet. J'ai fondé il y a 7 ans une association qui s'appelle la Maison de l'Artémisia pour mettre sur la place publique l'usage d'une plante qui soigne le paludisme. Elle, bien entendu, elle est hyper connue. Elle est hyper connue et elle, voilà, elle embête aujourd'hui un petit peu tout le monde parce qu'on a fait pas mal de battages médiatiques juste pour mettre le sujet sur la table. 3,5 milliards de personnes vivent en zone impaludée. C'est un projet, enfin, c'est une histoire de santé publique absolument majeure. Je fais ça parce que ça a sauvé la vie d'un de mes amis qui était en Éthiopie et qui a été donc traité, soigné par une médecin qui n'avait que ça dans le jardin de son dispensaire. Et j'ai bien dit que ça. C'est-à-dire qu'en Afrique aujourd'hui, il n'y a absolument pas partout des médicaments pour soigner les gens. Donc, la phytothérapie est d'abord utilisé 80% des patients en Afrique déjà. Alors je parle de l'Afrique parce que c'est ça qui me porte, mais j'arrive quand même en France en me disant mais comment c'est possible que cette plante qui soigne si bien cette pathologie et d'autres parasitoses ne soit pas inscrite alors qu'elle est un des phares de la médecine traditionnelle chinoise dans les 95 plantes de la liste des plantes médicinales françaises, et pourquoi elle n'est pas inscrite aussi à la liste, donc ça c'est ma question, pourquoi elle n'est pas inscrite à la liste des plantes médicinales européennes, sachant que elle est en vente libre en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, au Luxembourg, au Québec, bien sûr dans toute l'Amérique du Nord, bien entendu en Chine, quelques millions de personnes, en Chine, en Inde, en Vietnam, etc., et dans quelques pays africains. Qu'est-ce qui fait que dans notre pays, cette plante n'est pas en vente? Alors, liste que vous voulez, d'accord, mais pourquoi elle n'est pas, il n'y a pas de monographie, pourquoi elle est juste absente? Voilà ma question.
Merci à vous, Lucie. On y va, d'autres, tu peux répondre, Michel.
Je voulais juste répondre en disant que c'est la présentation tisane qui est la plus efficace par rapport au comprimé à la gélule ou à la poudre.
Et on rappelle que le palu, c'est quand même le premier tour mondial, hein, aujourd'hui. Thierry,
ça marche.
Oui, je sais bien.
Vous souhaitez répondre à la question, j'aimerais bien entendre votre réponse.
On va y arriver. Cher Thierry, donc, homme du Limousin, vas-y.
Je pose ma question.
Oui.
Parce que c'est vrai que je suis curieux d'avoir la réponse par rapport à Artemisia annua avant.
Ben voilà, alors on y va.
Là, très explicitement, on a pris une mesure de police sanitaire au niveau de la NSM sur l'Artemisia. Donc, Artemisia, de quoi parle-t-on à nouveau? Est-ce que c'est un extrait? Est-ce que c'est un produit manufacturé qui revendique quelque chose ou pas? Est-ce qu'on est dans de l'accompagnement thérapeutique? En tout état de cause, au niveau national, on tient compte de l'arsenal thérapeutique pour pouvoir définir. Donc, dès qu'on a un risque de perte de chance par rapport à un arsenal thérapeutique, et là, on est particulièrement sur de la prévention ou du traitement, mais on n'est pas dans un lieu où il n'y a pas de produit. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. C'est très bien de pouvoir utiliser. D'ailleurs, l'OMS reconnaît un certain nombre de plantes dans un usage traditionnel dans des pays qui n'ont pas d'autres spécialités ou d'autres produits qui ont fait leur preuve de leur efficacité. Alors, à suite, effectivement, il y a beaucoup d'études. En Chine, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de spécialité à base d'Artemisia qui arriverait en tant que médicament, ce qui revendique la prévention du paludisme? Parce qu'il faut, ou le traitement. Dans ce cas-là, on est dans un cadre de médicaments, on a toutes les données d'efficacité qui sont démontrées, dans ces indications-là, on ne peut pas être sur du traditionnel pour du médicament, en tout cas. Et la NSM est vigilante pour éviter les pertes de chance. Donc si on revendique, c'est pareil en termes de conseils, si on revendique une alternative à des traitements anticancéreux, une alternative, effectivement, la NSM ne va pas être en phase, puisque les priorisations ne sont pas du tout de travailler sur une approche complémentaire, ou alternative. On est dans une démarche complémentaire, on n'est pas sur une alternative à des médicaments qui ont fait leur preuve.
En fait, je dis ça simplement parce qu'en Afrique, quand une plante est interdite dans un pays comme la France, ça a un poids absolument immense pour les structures de soins et pour les autorités de santé. Et en fait, elle serait juste autorisée en France, mais dans la liste B ou avec un certain nombre de critères, pour une babésiose par exemple, etc. Ça aurait un poids en fait au niveau de la santé mondiale. C'est quand même juste énorme. Et c'est en cela que nous avons une responsabilité. C'est ça que je dis.
Merci à vous.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Et j'ai l'impression que malheureusement, souvent, parfois, la France se regarde le nombril et ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Exemple de l'Artemisia annua, eh bien, vous n'avez pas le droit de la vendre en France sous forme de plante sèche, mais on la trouve sous forme de complément alimentaire, parce qu'à partir du moment où elle est mettable sur le marché, sur un pays membre de la communauté européenne avec les règles de libre-échange communautaire, on peut la trouver. Et de toute façon, comme disait tout à l'heure une personne, quelqu'un veut de l'Artemisia annua, il a qu'à taper sur Google Artemisia annua, deux jours après il est livré par Amazon, voilà. C'est un peu le paradoxe.
Alors, Thierry, monsieur et madame après, je vous en prie.
Donc,
Thierry Thévenin, paysan, herboriste dans le Limousin.
Bah, moi, ce que je voudrais réagir, c'est que j'ai du mal à comprendre la position de la NSM par rapport à Artemisia annua. Il y a quand même juste 2000 ans de recul d'usage de cette plante en médecine populaire en Chine. Je trouve que ça vaut quand même quelque chose. Mais sinon, surtout, ce que je voulais dire, c'est que font les tisanes et que font les plantes dans le giron de la NSM? Est-ce que vous ne remarquez pas que même les grands laboratoires pharmaceutiques abandonnent les spécialités à base de plantes? Il y a combien aujourd'hui de tisanes? Parce qu'on parle de tisanes, vous dites que votre métier, c'est de contrôler les gens qui travaillent dans l'industrie. Aujourd'hui, il y a combien d'industriels qui proposent combien de tisanes pour les Français? Aujourd'hui, par exemple, le plantain, le bleuet sont des médicaments, à vos yeux, donc sont réservés au monopole pharmaceutique. Il y a une étude qui est parue qui a montré la vente des plantes en pharmacie sur les 3 dernières années. En fait, si on calcule combien, par exemple, pour 2 plantes en monopole, comme le plantain ou le bleuet, il y a de plantes disponibles pour chaque Français dans chaque officine, ça fait 7 grammes par an de disponibles. Donc, que font ces plantes-là dans le monopole? Il y a un monopole qui ne s'exerce pas. Et pourquoi les grands groupes comme Pierre Fabre ou comme des gens comme ça choisissent ce complément alimentaire et abandonnent? Il y a un médecin derrière moi que je connais qui est intervenu tout à l'heure, qui n'arrive plus à trouver ses produits parce que les labos abandonnent ça. Parce que je pense que ce système ANSM et ce système industriel, il est complètement décalé et inadapté à la plante. Enfin, je suis très direct, hein, mais je crois que c'est ça qu'il faut arriver à dépasser. Alors soit vous évoluez et vous avez d'autres façons d'aborder les plantes, sans parler d'un produit industriel comme peut l'être une molécule de synthèse nouvelle sur laquelle on n'a aucun recul d'usage, et vous intégrez vraiment la tradition, parce que je vous entends parler de tradition, mais en fait, quand il n'y a pas de preuves scientifiques et quand il n'y a pas de publications scientifiques, ça ne marche pas. Et qui détient aujourd'hui les publications scientifiques et qui sont les financiers qui financent les revues scientifiques et qui financent de plus en plus les universités? C'est les industriels. Donc je crois qu'il y a le problème, il est là, le cœur du problème, il est là, et il faut vraiment soit que vous acceptiez d'évoluer et aborder la plante d'une autre manière que le médicament synthétique, ou alors il faut laisser exister ce qui existe, malgré vous finalement, hein, et qui existe dans ce pays, et on est tous là pour le démontrer, que ça puisse exister en dehors du champ du médicament. Alors.
Non, il y a monsieur là, non. Là, monsieur, il attend depuis 3 siècles. Donc, on vous le donne après. Hein.
Le temps que le micro arrive, je mets encore mon grain de sable. Ce que dit Thierry est très vrai, mais malheureusement, ne concerne plus que la plante sèche. Parce que là, c'est triste à dire, là où il y avait de l'argent à faire, le complément alimentaire, qui est sur un marché qui pèse des milliards d'euros, qui est complètement en stagnation, sauf sur le complément alimentaire naturel qui subit une grosse croissance, le marché des huiles essentielles qui là aussi est un immense marché, eh bien tout ça c'est sorti du giron de la NSM, puisque les industriels s'en sont emparés. Et justement sur la forme tisane, pourquoi ils ne s'en sont pas emparés? Parce que c'est un micro-marché. Et on parle de la plante sèche en vrac, parce que vous la mettez dans une infusette, il y a une reproductibilité de dose, elle rentre sous le joug du complément alimentaire. Et là aussi, est-ce que vous avez une machine pour faire des infusettes? Non.
Merci bien. Monsieur, je vous en prie.
Loïc Bureau, je suis né dans une famille de producteurs de plantes médicinales, je suis pharmacien et je suis professeur de nutraceutique à l'université de Rennes. Je voudrais poser deux questions, une à Mme Lay et l'autre à M. Cousin. Concernant Mme Lay, c'est sur la liste A des plantes médicinales, il y a certaines plantes qui sont en non grisé, donc strictement médicinales, alors qu'elles figurent à l'arrêté plantes autorisées dans les compléments alimentaires, donc présentent un caractère d'alimentarité. On pourrait élargir aux plantes éligibles article 15, et celles du catalogue Novel Food, qui sont statut aliment traditionnel, et notamment le bleuet Centaurea cyanus. Pourquoi ces plantes ne sont-elles pas en grisé sur cette liste A, alors qu'elles ont un caractère d'alimentarité? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est pour M. Cousin, concernant les sachets d'eau infusettes, qui répondent à la définition du complément alimentaire en tant que quantité faiblement, enfin précisément mesurée et de petite quantité, donc prédosée. Donc ces infusettes entrent dans la définition du complément alimentaire. Alors est-ce qu'elles sont admises comme complément alimentaire et sinon pourquoi?
Allez, merci. On y va. Anne-Lé, s'il vous plaît.
Je voudrais d'abord répondre à cette question par rapport au domaine de l'industrie. Donc la NSM, nous, en tant qu'autorité de santé chargée de l'évaluation des médicaments, on n'est pas du tout responsable et on n'a pas pour mission d'influencer les industriels pharmaceutiques qui font leurs choix stratégiques. Donc là, je n'ai rien à dire sur ce sujet, à part que effectivement les exigences du médicament sont telles, en termes de qualité, en termes de suivi, en termes de pharmacovigilance, que peut-être le choix, c'est d'aller vers des réglementations peut-être moins contraignantes. Ensuite, donc, je n'ai rien à dire sur ce sujet-là. Ce n'est vraiment pas notre mission première d'orienter les choix industriels. des gros lobbies pharmaceutiques. En l'occurrence, les gros lobbies pharmaceutiques sont plutôt à vocation chimique et c'est plutôt des petites structures nationales qui développent et qui continuent de développer des médicaments à base de plantes traditionnelles ou d'usage médical bien établi. Donc ça, le sujet, c'est aussi comment est-ce qu'on maintient le tissu industriel de petites sociétés françaises qui sont sur le marché et qui peinent aussi à vu le contexte un peu complexe de la situation. Non, bah, on a quand même encore plus de 200 médicaments qui sont traditionnels. Alors après, ils sont bien connus, des produits que nos grands-mères déjà utilisaient ou mes parents.
Madame Lé, ma question était très simple.
Alors ça, c'était le sujet sur l'industrie. Le deuxième sujet, c'est les tisanes. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe des tisanes, etc. On s'occupe des tisanes parce que c'était des médicaments qu'elles ont été... C'est des tisanes manufacturées qui ont un étiquetage, qui respectent la réglementation du médicament. Mais les tisanes, quand elles sont alimentaires, on ne s'en occupe pas. Quand elles sont dans d'autres domaines, on ne s'en occupe pas. Quand elles sont vendues sur le marché, on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas nous qui nous en occupons. En l'occurrence, c'est d'autres ministères qui sont chargés des tisanes qui n'ont pas ce statut-là. Donc on ne prend pas ce monopole-là. Ensuite, si on dit ma tisane va traiter telle ou telle chose, on est dans l'exercice illégal. Donc voilà, c'est justement comment est-ce qu'on peut concevoir une autre façon d'utiliser ces tisanes avec une réglementation qui soit appropriée à une utilisation de tisane avec un conseil d'accompagnement pour à définir hein, dans quel champ on est, comment est-ce qu'on s'applique, comment on s'y applique, dans les autres États membres, pourquoi ça circule, parce que la réglementation, elle le prévoit, des statuts particuliers, elle prévoit des... Moi, j'ai discuté avec plusieurs États membres, que ce soit en Pologne, en Autriche, etc., il y a des listes de plantes qui sont autorisées, il y a des compétences qui sont développées, il y a des lieux qui sont développés, mais il n'y a pas de mélange de genre. On ne mélange pas le médicament avec l'alimentaire, on ne mélange pas les sources de produits. Effectivement, il faut les contrôler. Effectivement, on garantit qu'il n'y a pas de pesticides, mais dans l'alimentaire, c'est une autre façon de contrôler. Mais quand on dit on fait du médicament, on fait des tisanes en préparation dans une officine, on ne fait pas des tisanes ailleurs. Donc après, comment on fait ? Ben, on est là pour y réfléchir. Le sujet, c'est pas d'être en opposition. Le sujet, c'est de trouver un lieu pour y arriver et de trouver une façon de réfléchir pour pouvoir y arriver. Mais sans risque pour les patients, sans perte de chance pour les patients aussi, dans un contexte national, dans un contexte européen. Et on est là pour ça. Et je suis là, je me suis levée très tôt ce matin pour ça.
Guillaume Cousin. Merci, Anne-Lé. Quelques mots aussi, donc, sur ce thème, sur les infusettes peut-être.
Oui, juste... Enfin... Moi, l'interrogation quand même que j'ai aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut faire une tisane de millepertuis, même s'il ne revendique aucun effet thérapeutique, rentre dans le monopole pharmaceutique.
Vu le millepertuis, les monographies européennes, il y a du millepertuis d'usage médical bien établi, avec un certain type de préparation. Vous avez du millepertuis d'usage médical traditionnel, mais néanmoins, il y a des interactions médicamenteuses, il y a des précautions d'emploi à faire. Et dans ce cas-là, comment, en dehors d'un conseil pharmaceutique, en dehors de la connaissance des traitements que les patients ont, on peut envisager un conseil adapté. Alors, très bien.
C'était simple. C'était, par exemple, prenons l'exemple du bleuet dont on vient d'évoquer. Le bleuet, il n'est pas en grisé dans la liste A, donc strictement médicinal, donc d'un point de vue de l'Agence du médicament et de l'ARS, monopole pharmaceutique. Et malgré tout, il est inscrit au catalogue Novel Food comme non aliment traditionnel. Donc il peut être vendu. Alors d'un côté, il peut l'être et pas de l'autre. Et ça, c'est effectivement très intéressant pour alimenter le travail de Maître Robard. Mais de l'autre côté, sur le marché, on fait comment ?
Monsieur le sénateur, je vous en prie.
Madame, excusez-moi, je n'ai pas répondu à votre question. Mais
je sais bien, mais...
Sur les statuts, hein, si chacun respecte son statut, pourquoi il y aurait un problème ?
Alors, Guillaume, s'il vous plaît.
La DGCCRF a autorisé le bleuet dans ses compléments alimentaires. Donc le bleuet est autorisé en complément alimentaire. Alors, je ne sais pas de quel bleuet on parle, de quel extrait.
Tisane. Tisane. Bon.
Je voulais juste réagir à votre question sur l'infusette en tant que complément alimentaire. Là, on va tomber dans une analyse un peu technique de la définition du complément alimentaire. La DGCRF, lorsqu'elle examine les dossiers au cas par cas, n'a pas de parti pris, d'opposition de principe. Elle regarde si l'ensemble des caractéristiques du produit qui lui est présenté peut entrer dans cette définition, avec une difficulté majeure, c'est que cette définition, bien évidemment, comme toutes les définitions réglementaires, appelle des interprétations. Moi, je dis toujours que un produit présenté sous forme de dose avec un effet physiologique sur l'organisme, une mignonnette de whisky, moi, je vends ça comme complément alimentaire sans difficulté. Hein. Enfin, voilà. Donc après, il y a quand même une analyse au cas par cas que l'on mène pour voir s'il n'y a pas une possibilité de confusion avec une autre type de denrée alimentaire. Voilà.
Alors, monsieur le sénateur, je vous en prie. Après, on vous passe. Je sais que c'est chaud, mais on va y arriver. On va y arriver. Je vous en prie.
Merci beaucoup. Je suis donc sénateur de la République, mais je suis aussi ultramarin et président de la délégation sénatoriale d'Outre-mer. Vous comprendrez donc que je sois un petit peu plus sensible à ce qu'il dit en relation avec les Outre-mer. Et je vais vous interroger sur la reconnaissance de la tradition sur la directive européenne 2004. Que je ne connais pas, mais bon, qui dit que 30 ans d'utilisation médicinale et 15 ans dans un État membre. Ma question est simple. Est-ce que les Outre-mer français sont considérés comme la France ? Pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce qu'il s'agit d'une directive, donc d'une transposition. Et elle n'est pas applicable de fait, elle est applicable après transposition dans l'État de la nation. Dans chaque État membre. Donc je me dis, si ça n'a pas été fait, il y aurait une faille dont nous serions responsables dans l'État français. Donc si les grands-parents du professeur Henri Joseph ont utilisé pendant 30 ans, ça doit être connu il y a les 15 ans de... Ok, d'accord.
Néanmoins, merci. Cette directive prévoit une fabrication de médicaments. Donc c'est un cadre très particulier.
Oui. Je ne sais pas qui a le micro, parce que là, c'est moi, je ne gère pas le micro, donc on vous le passe maintenant. Et après, effectivement, vous avez été très patiente, je n'oublie pas.
Je vais être un tout petit peu pas politiquement correct. Merci à tous les intervenants, merci monsieur le sénateur d'être ici, c'est formidable. Finalement, vous nous décrivez une législation qui est une véritable usine à gaz. Or, je crois que nos législateurs, au départ, ont essayé d'imaginer comment ils allaient nous protéger, que l'on soit patient ou individu. Et j'ai l'impression que cette législation, aujourd'hui, nous empêche d'exister, nous empêche que les choses aient lieu. Or, tout a été fait pour que ceux qui font ne font pas n'importe quoi, ont été formés et font tout pour ne pas faire n'importe quoi. Alors la grosse question, c'est finalement, ne faut-il pas changer de législation, éventuellement de législateur, s'ils ne savent plus légiférer intelligemment ?
Voilà. Non, oui, il y avait madame. Il y avait madame. Attendez, vous avancez. Alors, vous l'avez. Très bien.
Voilà. Moi, je voulais... je passe une très bonne matinée. Je vois qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui sont là pour faire vivre la plante médicinale. Il y a une petite incohérence, c'est que la plante, de toute façon, tous ceux qui la connaissent savent qu'elle est multiple. Donc, vouloir la mettre dans une case, c'est comme nous vouloir nous mettre dans une case. Et on est des êtres multiples et la plante, c'est pareil quelque part. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est de vouloir étiqueter et de mettre quelque chose qui peut pas rentrer comme ça. Donc, pour moi, il y a une incohérence aussi à ce niveau-là. On peut pas comprendre les plantes en les mettant dans une case. Elles sont dans une globalité et elles sont aussi certainement dans une globalité d'action, à ma petite connaissance. Moi, je voudrais juste dire une petite chose. Moi, j'ai fait une école d'herboriste et j'ai choisi aussi de faire une faculté ici, faculté libre de médecine naturelle et ethnomédecine, pour avoir un diplôme de naturopathie et pour essayer aussi d'accompagner, parce qu'il y a une vraie demande et les gens sont en attente de conseils et qu'on leur recommande des remèdes naturels. Et moi aussi, j'ai été contrôlée et je ne vends rien. Mais on m'a demandé sur mon site internet d'enlever
les champs d'action des plantes et d'expliquer. En fait, ça permet aussi de montrer aux gens, parce que cette connaissance, elle n'est pas assez... Populairement, les gens aiment les plantes, mais ils ne savent pas les utiliser. Et donc, on a besoin de gens comme nous qui sont aussi vis-à-vis d'un engagement. On est aussi des gens sérieux et qui cherchons le bien-être et qui pouvons travailler aussi en prévention. Et la réalité du métier, ce que je vais vous dire aussi, c'est que la plupart du temps, et là aussi, je vais arrêter la langue de bois, la plupart du temps, en fait, légalement, on a le droit de faire de la prévention, on a le droit de faire du bien-être. Mais moi et mes consoeurs, et on est nombreuses, les gens viennent nous voir, mais ils sont malades. Et il y a plusieurs pathologies. Et ils sont en attente qu'on leur trouve des solutions parce qu'ils sont désespérés de la médecine allopathique ou de différentes choses. Et nous, on est là à notre petite échelle en leur disant bah, « Attendez, mais nous, exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la pharmacie, que voulez-vous qu'on fasse ?» Alors on essaye d'aider et d'accompagner dans notre cadre aussi juridique parce qu'on est très contraints. Moi, j'ai été contrôlée, j'ai dû changer mon site internet, j'ai été contrôlée sur l'URSSAF. Je dois faire signer un consentement préalable pour expliquer aux gens, je suis un petit peu tendue, mais c'est beaucoup d'émotion pour moi d'expliquer aussi mon quotidien et que je pense que d'autres personnes partagent.
S'y retrouvent.
S'y retrouvent. On doit faire signer un consentement préalable à la personne, et ça c'est ordre des services de l'État, pour bien leur dire, écoutez, on n'est pas médecin, mais on va essayer de vous aider et de vous trouver des solutions. Voilà. Donc, et on est sur un outil merveilleux. Les plantes, elles sont merveilleuses, chacun le sait ici dans leur métier. Donc, il y a aussi du bon sens, mais aussi J'ai vu un film qui est superbe, qui n'est pas celui de Daniel Schlosser, Enquête des nouveaux herboristes, mais il y a quelques jours, qui s'appelle La terre vue du cœur. Et là aussi, c'est une question de cœur, la plante médicinale. Il y a toute cette dimension-là qu'on ne peut pas mettre dans une case et qu'on ne peut pas étiqueter, et ainsi de suite. Et ce travail, je crois qu'il faut continuer de le faire. Et je ne suis pas la seule en tant que naturopathe, même si moi je suis aussi herboriste. Il y en a d'autres qui utilisent les plantes médicinales, des ostéopathes aussi, et ainsi de suite. Donc il y a de multiples métiers de l'herboristerie. Et je vous remercie, et particulièrement Joël aussi, et tous ceux qui travaillent, pour essayer de faire que justice soit faite ici. Merci beaucoup.
Merci à vous. Vous avez quel micro à la main? Vous l'avez, pardon, je vous en prie.
En fait, je suis toxicologue pharmacien spécialisé dans les substances d'origine naturelle et toxicologue Eurotox. En fait, j'aurais voulu apporter peut-être une étape suivante qui permettrait de sortir peut-être de position...
C'est peut-être cet après-midi, ça.
Oui, mais ça fait rien, j'ouvre le Allez. Débat. En fait, je voulais parler de l'alcool, de l'éthanol, qui est en vente libre, hein, puisqu'on peut en boire le midi, on peut en boire tout, voilà. Quand on regarde les risques, alors moi j'ai travaillé aussi bien sur la réglementation, la seule qui chapeaute l'ensemble des réglementations européennes, qui est REACH, REACH et CLP, et puis après, il y a en effet toutes les réglementations sectorielles, et... concernant l'éthanol, le seul danger qui est marqué, c'est sur l'inflammabilité. Or, on sait très bien que l'éthanol a beaucoup plus, on va dire, en termes de risque et d'exposition. Si on les décline dans les différents secteurs, en fait, on a beaucoup plus de problèmes. Donc, quand on parle des plantes, moi, j'aurais juste voulu peut-être mettre des... Comment je pourrais dire? La toxicologie, c'est une science des catastrophes. D'accord? Peut-être moduler en se disant par rapport à un niveau de danger et après, quand on inclut l'exposition à un niveau de risque, puisque ce n'est pas la même chose, comparer peut-être, voir à quel niveau se situent les plantes et à quel niveau se situent éventuellement des substances qui sont en vente libre, que le consommateur est responsable d'utiliser ou non, et qui ont quand même une certaine classification de danger, plus ou moins donc une toxicité grave, voilà, et chronique. Parce que quand même l'éthanol, c'est une des rares substances qui, en termes, que je pourrais dire, toxicité chronique...
Oui, là, mettez pas la main surtout sur le bas du micro, voilà, et parlez...
En tout cas...
Non, allez-y.
L'éthanol, ouais. Allô Ça marche plus.
Forcez votre voix, chère madame.
Alors, l'éthanol, pour moi, serait peut-être un curseur à prendre en compte par rapport aux problématiques de danger et d'exposition, parce que je différencierais les deux si on doit faire des choix par rapport aux plantes médicinales et aux substances chimiques. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à voir dans une chronologie qui permettrait peut-être de faire une réglementation adaptée, peut-être de la sortir, je suis de la réglementation purement médicamenteuse, parce que là on est tous coincés, pour essayer d'être créatifs, puisqu'on est très nombreux, donc on peut être créatif aujourd'hui, et peut-être en prenant en compte donc éthanol, danger, exposition, donc risque.
Merci. Merci à vous.
Moi, je trouve cette idée très intéressante parce que c'est ce, pas dans un cadre réglementaire, mais c'est ce que nous avons mis au point, en fait, dans le cadre du réseau Tramil. Donc, 30 pays, 200 chercheurs pour toute la zone Caraïbe, Amérique centrale, hein, de Mexico jusqu'à Panama, de Cuba jusqu'à Trinidad. En fait, nous avons fait des enquêtes ethnopharmacologiques, donc sur l'usage des plantes. Et ensuite, nous avons soumis ces plantes à des experts, donc toxicologues comme vous, il y a des pharmacologues, des chimistes, etc. Et les gens utilisent traditionnellement ces plantes pour se soigner. Mais quand on a fait ces recherches, on s'est aperçu qu'il y avait des plantes qui étaient toxiques. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a classé les plantes en trois catégories. Catégorie tox, ce sont les plantes dont on a prouvé la toxicité. Donc on a dit aux gens, attention, c'est vrai, ça fait partie de votre tradition, mais on vous signale qu'on a observé donc une toxicité.
La belladone, ensuite, c'est pas bon pour les enfants. Et non.
Voilà. Ensuite, il y a INV, Investigation. Donc, des recherches complémentaires sont nécessaires avant de classer en tox. Et la troisième catégorie, c'est REC, recommandé. C'est-à-dire qu'on avait tous les éléments au niveau de la chimie, de la pharmacologie, de la toxicologie, pour que les gens puissent utiliser les plantes en toute sécurité. Et ça marche très bien dans la Caraïbe.
Alors, on en prend une parce que là, il est 11h30. Allez, on y va, monsieur. C'est pour vous, vous avez le micro.
Je voulais rebondir sur la. Enfin, bonjour Samy, pharmacien d'officine et toxicologue. Je voulais juste rebondir sur la notion de ne pas faire rentrer la plante dans une case, parce que effectivement, il y a beaucoup de cases. Il y a quand même une case dans laquelle on peut la faire rentrer à coup sûr pour beaucoup, en tout cas, de plantes médicinales et pour ça vaut pour beaucoup d'espèces vivantes. C'est espèces menacées. Cette case-là, elle peut y aller sans problème a priori. Et donc, effectivement. Faire attention à ne pas faire des réglementations qui soient complètement inadaptées par rapport à notre réalité de terrain et pour permettre à tout un tas de types de diplômes de se déployer dans la filière, ça, très bien. Par contre, quand même, faire attention à aussi avoir des réglementations parce que ça me permet de rebondir aussi sur la notion de... On attribue souvent le lobbying anti... Enfin, qui nous empêche de travailler à Big Pharma et à l'industrie pharmaceutique. Mais en fait, cette responsabilité de lobbying ne revient pas que aux pharmaciens et à l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie en général, y compris alimentaire et y compris complément alimentaire, qui à travers la dérégulation qui a été permise au niveau du complément alimentaire, aujourd'hui fait consommer une masse, une quantité de plantes, où on peut quand même se poser la question du sens que ça a et surtout de la pérennité de cette démarche. Voilà.
Merci à vous. Merci beaucoup.